21h minuit, c'est la libre antenne de Vanessa sur Peur FM.
Et oui, c'est la libre antenne et nous sommes le mardi 1er mai, messieurs, dames, 1er mai. Non, c'est pour vous dire juste que nous sommes là, 1er mai, voilà, Jérémy et moi. Nous sommes en direct, alors donc vous pouvez appeler au 01 53 48 3000, le standard est ouvert pour vous, rien que pour vous. Et c'est Jérémy, comme chaque soir, qui vous répondra, même à 1er mai, vous répondra oui. Avec beaucoup d'amabilité, de gentillesse.
Avec grand plaisir, oui. Bonsoir Vanessa, bonsoir à tous.
Bonsoir Jérémy, comment ça va aujourd'hui?
Ça va bien et toi?
Bah écoute, ça va.
Est-ce qu'on se voit? Ça va bien et vous?
Ah oui, alors... vous, oui, paraît-il que c'est comme ça que ça se passe à la télé.
À la télé, dans le showbiz.
À la télé, dans certaines radios, pareil. Donc ils se vouvoient au micro et puis hors antenne, ça se tape sur l'épaule.
C'est ça.
Voilà quoi, enfin normal. Non, non.
Des vrais potes.
Mais nous on ne triche pas. On ne triche pas.
Naturel.
Voilà. On est naturel. On fait
et
pas
qu'est-ce
semblant.
Qu'on a le 1er mai? Qu'est-ce qui se passe le 1er mai?
Ah, c'est le porte-bonheur, le muguet.
Eh, le muguet!
Le muguet! Le muguet, le muguet, oui, le muguet. Non! En direct, je l'aime. Mon brin de muguet.
Voilà.
Oh, Jérémy, t'es un amour, je t'adore.
Avec un super vase.
Ah, il est magnifique.
Voilà. Pour ton bonheur, Vanessa.
Oh, c'est gentil.
Ton brin de muguet, je te l'apporte.
Oh, t'es un amour. Ah, vraiment. Ah là là, ce que c'est gentil. Oh, ah, il va me porter bonheur, celui-là. Hein. Oh, merci, mon Jérémy. Ah, je t'adore. T'es un amour, vraiment. Ah ouais, on n'en fait plus des comme toi. Un super beau brin de muguet. Je vais prendre en photo, j'ai publié sur Facebook. Hein. Voilà. Hein. Voilà, un brin de muguet. Offert par Jérémy, vous vous rendez compte, quand je vous dis qu'il est gentil ce garçon, il est galant, il est plein de bonnes intentions, hein. Voilà. En tout cas, merci pour ta gentillesse, Jérémy. Vraiment. Je suis très touchée. Je m'attendais pas.
Merci. Non, mais moi je trouve ça un peu, je dirais pas,
beau symbole.
Normal,
hein.
C'est normal. Voilà, c'est un petit symbole, 1er mai.
Magnifique. Il va me porter bonheur, je suis sûre.
Ah, j'en suis sûre.
Ouais, moi aussi.
Je me suis acheté le mien aussi, au passage, comme ça, en même temps.
Ah, ben voilà. Ah, j'adore. J'adore le parfum du muguet.
Eh oui.
Magnifique.
Ça sent très bon.
Ouais, c'est vrai. Ben écoute, merci infiniment, Jérémy, voilà. Eh bien, j'ai mon petit brin de muguet ici, hein, qui trône sur le bureau, j'allais dire. Sur la table.
La table,
pas de mixage, parce que c'est toi qui l'as. Hein,
oui, c'est moi qui ai la table de mixage.
Voilà. Moi, j'ai la table, je sais pas comment on l'appelle, avec plein de micros et de...
Bon, toi, t'as la table des invités, la table de l'animateur.
Voilà. En tout cas, je suis une femme heureuse là ce soir et je sens que le bonheur est bientôt là.
Ah, il est à ta porte.
Toc, toc, toc. Allez, on y va, chers amis, le standard est ouvert. C'est la bonne humeur dans les studios de Beurre FM grâce à mon brin de muguet, hein, qui me sourit. Voilà, 01 53 48 3000. Allez, une pensée pour nos amis qui sont souffrants, qui sont malades. Je vous souhaite un prompt rétablissement, ainsi qu'à vous qui êtes hospitalisés ou seuls chez vous, une pensée également. Personnes qui sont incarcérées ainsi qu'à vos familles. Et on n'oublie pas les courageuses et les courageux du soir. Vous qui travaillez de nuit, une pensée également aux personnes qui n'ont pas de domicile fixe, aux sans-papiers, aux réfugiés, aux animaux. Une pensée à tous les terriens sans distinction aucune. Voilà, pensez à tout le monde. Eh bien, chers amis, sujet libre ce soir, puisque nous sommes un 1er mai, beaucoup n'ont pas travaillé, donc je pense que, bon, c'est vrai qu'on est un petit peu ramollo, tranquille, dans sa tête. Bientôt, c'est le mois de Ramadan, donc nous sommes entre deux périodes, voilà, le printemps et le mois de Ramadan qui arrive à grands pas, voilà. Mais pour l'heure, eh bien, je vous attends nombreux et nombreux. Je suis sûre que certains, beaucoup d'ailleurs, ont pensé que ce soir, on ne serait pas là aujourd'hui, Jérémy.
Hein, eh bien, ils se trompent.
Ben oui, ils se trompent. Donc réveillez-vous, nous sommes là. Voilà, il est fidèle, le fidèle de chez Fidèle, qu'on aime tant. C'est Fernando de Troyes. Bonsoir, mon Fernando.
Bonsoir Vanessa.
Bienvenue, Fernando.
Bah merci beaucoup. Je pensais pas possible parce que voilà.
Ah, si, c'est un plaisir de t'entendre, hein, vraiment.
En fait, merci beaucoup parce que j'ai plein de choses importantes à dire et qui me touchent à chaque fois. C'est comme par exemple hier, tu sais, j'ai écouté ton émission et voilà. Oui. En début d'émission hier, il y avait Fatima qui disait voilà, mais les condolences de ma mère et
oui.
Et
c'est
puis
vrai.
Voilà, et bon, et ça m'a touché une fois de plus. Oui. Parce que voilà.
Tous les soirs, hein, ça arrive tous les soirs, je t'assure. Et je reçois aussi des messages en privé. Mais tous les soirs, il y a au moins un auditeur, une auditrice qui pense à toi.
Ben voilà, ben, quelles que soient les personnes qui disent ça, c'est sur moi, là, les auditeurs quand ils parlent, là, je remercie beaucoup à tous parce que ça me touche, parce que moi, j'ai dans mon histoire, ben, personne ne s'est jamais intéressé à moi, je suis depuis des années de cette société individualiste, c'est voilà que chacun se débrouille. Bon, voilà, je vais pas raconter une fois plus mon histoire, mais en tout cas, voilà,
non, ça me touche. C'est bien d'en parler, c'est bien de pousser un coup de gueule, et tu as raison, cette société, elle est individualiste,
oui,
je te l'accorde.
J'en souffre, voilà, parce que je trouve que personne se cherche et que personne m'a jamais cherché, personne s'est jamais intéressé à moi, et pourtant je suis ouvert, hein, je suis ouvert, mais voilà, et enfin bref, voilà, c'est à la fois un coup de colère, en même temps un remerciement, voilà, dans ton émission, que ça me touche, et voilà, que je remercie vraiment beaucoup, comme par exemple dire Fatima, et Fatima, je la connais depuis longtemps, hein, de ses deux vues dans ton émission, parce que même si Manel t'appelle rarement, je l'apprécie beaucoup, je sais que c'est une personne gentille, qui... Et puis ça fait deux fois hein, qu'elle a dit du bien de moi, parce que je me souviens un coup il y a longtemps quand j'avais une discussion avec toi, quand je parlais d'un SDF, c'est il y a environ deux ou trois ans, c'est il y a longtemps, et ben je me souviens, elle m'avait dit que voilà, sur ça à toi, hein, elle avait dit de moi qu'elle m'appréciait, que
c'est vrai. C'est vrai.
J'apprécie aussi Fatima, et puis voilà. Et puis en même temps je sais plus ce que je veux dire, il y a quoi d'autre. Au fait, je remercie également par téléphone aussi les deux Sonia. Sonia, c'est vraiment des prénoms qui me portent chance, hein.
Oui.
Parce qu'en fait, Sonia, c'est une personne, qui avait répondu à mon annonce que j'avais fait une fois dans ton émission de rencontre du vendredi. Et il y a également une Sonia qui, je ne sais pas pour quelle raison, pendant environ celle qui me l'a dit, hein, que par SMS, c'est parce qu'en fait elle m'envoie uniquement des SMS à l'autre Sonia que je te parle. Elle m'avait dit que c'était 2-3 ans, on avait pris contact et tout ça, mais qu'après je ne sais pas pour quelle raison, elle a coupé les ponts. Mm-hmm. Là actuellement elle me renvoie des SMS, mais voilà, pour me souhaiter condoléances, c'est malgré tout, c'est je l'apprécie parce que c'est, elle me dit vraiment des mots gentils, hein, et qui me touchent, hein.
Mais oui,
et voilà, et elle m'a dit voilà qu'elle était touchée par le décès de ma mère, et puis aussi elle m'avait dit aussi voilà qu'elle souhaite qu'un jour je passe à Paris, non pas pour la rencontrer, mais par exemple pour te rencontrer toi, Vanessa, pour me changer les idées.
Bah oui, pourquoi pas, bien sûr. Bah écoute, tout arrive, à qui sait attendre, bien sûr.
Oui, un jour j'essaierai de me débrouiller pour prendre le train, je ne sais quoi, pour aller à Paris. Mm-hmm. Mais voilà, mais en tout, un jour je ferai le nécessaire, c'est pour aller là-bas.
Bah écoute, avec grand plaisir en tous les cas. Ça va te changer les idées. Comment ça se passe en ce moment pour toi? Dis-moi.
Justement, hier, mon père, il a été voir le médecin traitant qu'on connaît depuis longtemps, mes parents et moi. Il a été médecin depuis 1976, mais c'est en 78 que ma mère, elle a commencé à le connaître, parce que qu'en 78, ma mère, elle était enceinte de ma sœur, c'est à l'époque. Elle a commencé à le connaître, c'est comme ça, mes parents, là, mon docteur, que moi aussi je connais. Et voilà, et en fait, mon père, il était hier le voir, là, et en fait, le docteur, il est averti de l'hôpital, on l'avertit par courrier, le docteur, mon docteur, là, que ma mère, elle était décédée. Et voilà, et en fait, hier, quand mon père il a été le voir, le docteur, parce qu'en même temps, c'est pour son cancer, hein, que mon père il a été le voir hier, là.
Oui.
Et en même temps, mon père, il lui a demandé, parce que normalement, il avait pas le droit, mais comme mon docteur, il connaît depuis longtemps mes parents, depuis longtemps, il lui a donné un papier qu'on lui a donné à l'hôpital, qu'ils nous ont pas donné à nous, hein, à mon père et moi. C'était un papier des diagnostics, tu sais, de ma mère, là, des raisons pour lesquelles, comment elle a été décédée, sans détail.
Oui, bien sûr.
Bon, voilà, j'ai lu l'affiche et je ne comprends rien, parce que c'est, faut être un expert à l'hôpital, là. S'il y a des chiffres, c'est marqué 0, je sais pas quoi, ça raconte, voilà, que ma mère, elle était morte subitement d'une crise cardiaque, voilà, parce que ses deux reins, parce qu'en fait, elle a perdu un liquide, tu sais, qu'on a, nous tous, dans notre corps, hein, mais en fait, ma mère, comme ses deux reins ne fonctionnaient plus, elle perdait beaucoup de ce liquide-là. Je ne sais pas si tu me comprends ce que je
Non, mais je comprends, oui. Et c'était à quel niveau?
Ça, je ne sais pas, parce que là, il faut que je regarde la
suite. Ah oui.
Donc, j'y connais rien, parce qu'en fait, c'est marqué les... Telegram ou je sais pas quoi, mais enfin bref, bon,
oui, bah, oui, voilà, oui. Bah, non, c'est un peu
oui, fait, bien sûr. Ouais, voilà, et en fait, et pour te dire, bien sûr, c'est une bêtise que je vais te dire,
hein. Mais non, faut tu pas, dis pas de bêtise.
Non, mais ce que je vais te dire là, il faut pas que tu tiennes compte, mais c'est vrai que moi, en apparence, ça m'a donné la pression en apparence que à l'hôpital, on tu sais, ouais, parce que sa mort, elle était vraiment imprévisible, subite, c'est rapidement inattendu, que voilà, que moi, à un moment donné, j'ai pensé, moi, que voilà, que c'est que, étant donné qu'à l'hôpital, ils ont pas voulu faire le nécessaire pour, c'est pour la soigner, parce que comme moi, j'habite à Troyes et qu'on n'a pas les grands moyens, comme il y a à Paris ou à Reims, là, dans les hôpitaux, moi, j'ai eu la bêtise de penser que voilà, qu'on, à l'hôpital, on lui aurait donné une sorte de médicament pour qu'on l'empoisonne, pour qu'elle meure en douceur. Non, mais c'est une bêtise que moi, j'ai pensé.
C'est le chagrin, hein, tu sais, avec le chagrin, on se fait beaucoup d'idées. Je comprends. Parce qu'une maman, ça doit pas mourir. Une maman, ça doit pas partir. Donc, si elle est partie, c'est toujours la faute de quelqu'un. Tu n'es pas le seul à penser de cette manière.
C'est pas ça, parce qu'en fait, pour te rafraîchir la mémoire, Vanessa, j'avais du mal à réaliser. Je sais qu'on m'a annoncé le matin la mort de ma mère, j'ai du mal à réaliser.
Je me souviens.
Pas seulement que je l'ai perdue, mais aussi j'ai du mal à réaliser parce que mon père et moi, au contraire, nous la voyons de mieux en mieux récupérer son état mental. C'est une fois qu'elle était sortie de son coma. Mon père et moi, de jour en jour, nous voyons de mieux en mieux récupérer ma mère parce qu'on la retrouvait, puisque moi je faisais des tests, tu sais, de mémoire à ma mère, quand je disais tiens, qui c'est qui a dit un tel, je sais pas, ou des discussions, et je voyais que c'est que non, où j'ai dû demander des dates de naissance, dis-moi en quelle année moi je suis né, ou un tel est né de la famille, et voilà, elle se rappelait de mieux en mieux, et mon père et moi au contraire nous la voyons de mieux en mieux récupérer,
ça vous rassurait,
et après le lendemain on m'annonce sa mort comme ça, d'une crise cardiaque. Je ne sais pas si ma mère elle est morte d'une crise cardiaque, parce qu'en fait c'est environ 2 mois qu'elle était morte sans bouger. Je ne sais pas si la raison de son arrêt du cœur, ou alors je ne sais pas si l'arrêt de sa crise cardiaque, ça vient en même temps aussi de ses deux reins. C'est parce qu'en fait mon père il m'avait expliqué, si j'ai bien compris ce qu'il m'a dit, qu'en fait les reins ont aussi un rapport avec le fonctionnement du cœur, hein, si j'ai bien compris.
À un moment donné, les organes, eh bien, parce que les organes sont tous reliés les uns aux autres, forcément, hein, déjà par nos veines, parce que le sang qui circule, par l'oxygène, par beaucoup de choses qui circulent dans nos veines, hein, le sang est constitué de beaucoup d'éléments, et tous, il y a des filaments, il y a, je ne sais pas comment les nommer, mais il y a beaucoup de tissus qui relie les organes entre eux. Donc, ce qui fait que, bien évidemment, s'il y a quelque chose de toxique, on va dire, ou quelque chose qui manque au sang pour pouvoir faire fonctionner l'organisme convenablement, parce que ce sang qui est irrigué, bien évidemment que, à un moment donné, le cœur s'arrête, le cerveau, etc. C'est normal, parce que tous les organes sont reliés. Et tous communiquent entre eux. Le sang traverse, c'est comme un fleuve. Il traverse, il parcourt tout notre organisme.
Pardonne-moi de te couper, parce que comme j'ai mis de temps. Mais en fait, je voulais dire, voilà, que je pense tous les jours à ma mère, que, tu sais, voilà, je ne pleure pas, mais je suis vraiment triste au fond de moi, même parce qu'elle me manque terriblement. Normal. Et c'est la très rare personne de mon, en dehors de mes contacts téléphoniques, hein, bien sûr, mais en dehors de ça, tu sais, dans les contacts réels, que tu sais, dans ma vraie vie, là-bas.
Bien sûr.
C'est la très rare personne de ma mère que j'ai énormément aimé. Bon, bien sûr, ça peut paraître bête, parce que voilà, tu vas me dire, Vanessa, bien sûr, c'est ma mère, mais
non,
et voilà, mais avec mon histoire, tu sais, voilà, que
on peut être attaché
particulière,
ben voilà, exactement, chacun voilà, son histoire, et
oui, voilà, et, ma mère me manque terriblement, et au fait, et j'ai aussi voulu te dire, c'est une chose seulement que j'ai pas le temps de tout dire dans ton émission, c'est que mon grand regret aussi, c'est que avec mon caméscope, c'est quand elle avait récupéré là ma mère, quand elle avait retrouvé toute sa tête à l'hôpital pour le peu de temps qui lui reste à vivre, Mais ben mon grand regret, c'est que je l'ai pas filmé ça, mon caméscope.
Ouais, 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 c'est
parce qu'en fait,
ça.
Moi, j'ai seulement filmé dans le coma et après quand elle était morte. Mais entre les deux, c'est-à-dire pour le peu de temps qu'il lui reste à vie, quand elle avait récupéré toute sa tête à l'hôpital, là, je ne l'ai pas filmé. Et c'est ça mon grand regret pour deux raisons. C'est parce que si tu me demandes pourquoi j'ai pas filmé, c'est pour les deux raisons. Là. Premièrement, parce que quand j'avais filmé, tu sais, quand elle était dans le coma, à l'hôpital, ils m'ont déconseillé d'arrêter de filmer parce que d'après eux, ça me disait que la lumière de mon caméscope, ça pouvait paraît-il d'après eux bousiller leur machine, leur dialyse et leur écran là. C'est la lumière du caméscope d'après ce qu'ils m'ont dit.
Bien sûr, ça peut.
Et la deuxième raison aussi que j'ai arrêté de la filmer, c'est qu'après une fois que j'avais vu récupérer qu'elle était sortie de son coma et qu'après de jour en jour je la voyais mais jamais récupérée, j'avais retrouvé ses esprits, je me disais voilà, c'est bon, elle va récupérer.
Tu t'es dit que tu avais tout ton temps pour.
C'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter de filmer, parce que je m'étais dit, ça y est, c'est bon, elle va récupérer, maintenant c'est bon, j'ai retrouvé...
Tu l'as montré à ta mère, ce que tu avais filmé?
Oui, putain, c'est quand elle va récupérer, parce que j'avais filmé en même temps mon téléphone portable, j'ai tout fait. Le plus souvent, c'est dans mon caméscope, parce qu'il est mieux net.
Et tu l'as montré quand elle était dans le coma. Et comment elle était, quelle a été sa réaction?
C'est parce que je dis que justement dis attention, tu es surprise. Après il dit non, il dit monte, mais t'en es sûr? Hein, moi après je lui ai montré et après elle était juste étonnée. Et je me souviens, c'est je crois que c'est la dernière fois que j'ai vu à l'hôpital. Moi, ce qui me concerne, parce qu'en fait, c'est mon père qui l'a vu dernier, sans le savoir, lui, de son vivant. Mm-hmm. Bon, mais moi, c'était, il restait, tu sais, l'avant-dernier jour, moi, que je l'ai... Non, parce que moi, en fait, ce qui me concerne personnellement, c'est moi, la dernière fois que je l'ai vu. Bah, je lui ai fait écouter une chanson de Claude François de mon téléphone portable.
De Claude François, parce qu'elle aime bien?
Oui, parce qu'on... Non, parce qu'en fait, pour te dire dans les détails, fait, peu de temps avant sa mort, je m'étais dit que, étant donné qu'il y a longtemps que je n'ai pas fait un cadeau, j'avais acheté l'intégralité des chansons à lui en album studio, là, en CD, là, de ses chansons à lui.
D'accord.
Parce que j'ai posé la question, je préfère quoi, j'achète une paire de pompes que j'ai besoin, ou alors, étant donné qu'il y a longtemps que je n'ai pas fait de cadeau, j'achète le cadeau de Claude François. Bon, et après, voilà, elle m'a dit oui.
Est-ce qu'elle a eu le temps d'écouter? Elle a eu le temps d'écouter un petit peu quand même.
Parce qu'avant qu'elle aille à l'hôpital, elle restait sans bouger, sans sortir, comme tu le sais.
Oui, bien sûr.
Elle n'avait plus de force. C'est moi qui lui a fait écouter de force, si je puis dire, dans les deux sens. Quelques chansons de lui après, bien sûr, dans l'ensemble, elle les connaissait, mais il y a plein qu'elle connaissait pas, parce que c'était des chansons, un album intégral de lui, hein, de 61, 78. Dernière chanson que j'ai fait écouter, c'était une reprise des Bee Gees, c'est que elle et moi on connaissait pas, hein, surtout elle, puisque c'est de sa génération, la connaissait pas. Bon, et j'avais enregistré dans mon téléphone portable, hein, et je l'ai toujours. Hein, bon, je garderai en souvenir l'album de lui. Là.
Ben oui, ça te rappellera ta maman.
Oui, voilà. Et enfin, ce que je voulais dire aussi, c'est que mon regret, c'est que j'aurais pu la filmer quand elle avait toute sa tête et que je l'ai pas fait.
Mais on savait tout. Tu sais, la vie, elle est ainsi faite et les gens restent toujours avec des regrets. Je pense qu'on aura tous des regrets un jour. C'est normal parce qu'on se dit on n'a jamais suffisamment fait ou voilà. Mais si tu l'avais filmé, ça aurait été autre chose comme raison de regret.
J'ai seulement pris, quand elle avait récupéré qu'il y avait toute sa tête, j'ai seulement pris une seule photo. C'était 5 jours avant sa mort, sans le savoir, j'avais fait ça machinalement, avec mon téléphone portable. Je vais prendre une photo dessus en discutant avec elle, j'ai fait ça machinalement, mais après, je pensais l'effacer, parce que j'ai cru après la retrouver à la maison plus tard, mais non. J'ai fait 5 jours avant sa mort, machinalement.
C'est bien ça déjà.
Oui, j'ai regardé toute ma vie, la dernière photo. Bon, après, j'ai fait photo d'elle quand elle était allongée dans le cercueil. Et c'était un enterrement digne d'une star. Hein. Parce que je remercie, en fait, l'enterrement aussi également. Hein. Bon, bien sûr, mon père, comme tu le sais, on a payé, mon père et moi, mais c'était un enterrement digne d'une célébrité qu'a lui ma mère. Hein, c'est ce que j'ai dit dire au monsieur qui s'occupe de ça.
Oui. Ça, c'est une bonne chose. Tu vois, au moins, il y a ça qui va te... comment dire, qui va te
récupérer. Excuse-moi de te couper, ce que oui, je voulais te dire aussi, c'est que c'est bizarre les choses, parce qu'en fait, ma mère, elle a eu en tout 5 enfants, avec moi y compris.
Bien sûr.
Et dans les 5, je suis le seul et le dernier qu'elle a fait. J'étais le seul à l'avoir aimé.
Tu penses? Les autres l'ont pas aimé?
Oui, parce que bon,
mais c'est dommage, vraiment.
J'ai pas le temps de vous dire en détail, mais voilà, j'ai eu deux demi-sœurs que je n'ai pas connues, et après, bon, j'ai eu un grand frère et une sœur, bon, et voilà, et j'étais le dernier mois, et des trois, j'étais en tout cinq, en comptant mes demi-sœurs, bon, ben, je suis le seul à l'avoir aimé, et voilà, et
c'est dommage, c'est vraiment dommage.
Parce que c'est dommage aussi, parce que ma mère, c'est vraiment une personne gentille.
Bah oui, c'est dommage, vraiment, de la part de ton frère et de ta sœur, c'est cela?
Oui, puis après mes demi-sœurs...
Et tu m'as dit également que sa sœur, ta tante, n'a pas assisté au funérailles, enfin à l'enterrement, à la cérémonie.
Non, parce qu'en fait, ma mère, elle a eu plein elle a eu un frère et je sais pas combien de plein de sœurs, mais il y en a seulement eu deux sœurs qui ont été à l'enterrement. Une sœur que j'ai vue, que j'ai jamais connue, que je lui ai fait la bise, parce qu'elle m'avait, voilà, je vois qu'elle ressemblait tout ça. Mm-hmm. Et après, une sœur que c'était la seule moi que j'ai connue moi dans mon enfance, la dernière fois que j'ai vu, c'est en 1992. Mmh. Elle est arrivée tardivement à l'enterrement parce que c'était moi qui lui avait dit d'arriver à 10h, mais malheureusement dans l'enterrement on m'a mal compris ce qui disait les heures de c'est voilà de cercueil. Bon, enfin bref, bon voilà, elle est arrivée tardivement, après voilà, je vais parler de ça, bon, et là maintenant je lui reparle, hein. Je lui reparlais parce qu'on a pris contact.
Bien, ça.
Et bon, après, bien sûr, voilà, c'était la dernière fois qu'on s'était parlé en 1992, mais je connais les raisons pour lesquelles j'ai pu revivre 1992, parce qu'en fait, ça venait pas d'elle, parce qu'en fait, c'est mon père.
D'accord.
Oui, parce qu'en fait, voilà, mon père, voilà, ma mère voulait pas embêter sa sœur avec mon père, et puis aussi parce que chez moi, c'est pas propre. Ah oui, ça t'étonne, hein. Il y a des choses que tu ignores de moi, Vanessa, parce que j'ai pas le temps de tout dire en détail.
T'as pas tout dit. Ben oui, c'est bien.
Oui, parce que je ne connais pas la propreté, je ne connais pas l'espace, mon père, c'est un égoïste, voilà, il y a du bordel chez moi, depuis 1986, j'habite dans mon bâtiment et il a jamais voulu refaire les murs. Ah oui, ça t'étonne, hein. Ben oui.
Non, ça m'étonne pas.
J'y pose ça méchamment contre toi, mais voilà.
Non, ça ne m'étonne. Je suis ni étonnée, ni surprise. Non, parce que je me dis, tu sais, je ne suis pas dans le jugement, voilà. Voilà, tout simplement.
Pour revenir hier à Fatima,
quand on n'est pas dans le jugement, on n'est pas surpris parce que finalement, on réagit tous différemment et puis il y a des moments différents de notre vie parce que chacun traverse des moments difficiles et dans les moments difficiles, eh bien, de moments où on n'est pas bien ou voilà, on a tous des soucis.
Non, parce que pour revenir en fait à Fatima, ça m'a touché le message de gentillesse qu'a eu Fatima envers moi, mais ce qui m'a pas plu, mais je m'en veux pas parce que c'est normal, elle connaît pas mon histoire, mais voilà, mais je m'en veux dans le sens à Fatima hier que elle disait qu'il reste encore mon père, mais elle connaît pas, c'est mon père, comment il est, elle croit, bon, parce que voilà, mes parents, ils ont tous les deux 73 ans, elle croit que voilà, que c'est des personnes classiques, c'est des vieux pépères tranquilles. Oui, pour ma mère, oui, ça concerne elle, oui, ça, mais pas mon père. Mon père,
Fatima, elle connaît pas ton père, donc elle sait pas. Et Fatima a eu beaucoup de compassion pour toi.
Non, mais je l'en veux.
Tu vois, beaucoup de tendresse. et pour elle, eh bien, oui, pour beaucoup d'ailleurs, eh bien, les gens se disent, bon, heureusement, il y a encore le papa et ça, au moins, c'est une béquille sur laquelle il peut.
Il y a un jour, comme j'ai déjà dit, je raconterai si tu voudras bien son histoire à mon père, comme ça tu comprendras mieux. Mais je sais pas si un jour tu voudrais bien. Hein, je veux pas non plus t'embêter dans ta émission parce que je sais que
tu m'embêtes pas du tout, Fernando. Tu ne m'embêtes pas.
Ton ami, tu fais Vanessa une mission de qualité. C'est comme hier, c'est voilà, tu m'as pas appris. Je sais pourquoi, parce que tu croyais que j'avais pas débattre sur le débat de la petite fille.
Non, laisse tomber. Fernando, je vais pas le répéter encore une fois. Je n'ai pas la liste qui est très 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 longue des personnes, des auditeurs qui appellent. Moi, ce que j'ai face à moi, la liste des chansons qui vont passer. J'ai face à moi des messages qui me parviennent et j'ai face à moi un troisième ordinateur qui, quand la personne va passer, eh bien, J'ai son prénom qui s'affiche et là je l'annonce. Donc ouais, je ne sais pas si tu étais en attente. Dans la longue liste.
Ça, je vais que tu es une personne merveilleuse. Ton émission est géniale, magnifique.
C'est gentil,
ne
merci.
Change rien. Même Jérémy aussi, je lui souhaite d'ailleurs une bonne scène parce que je me souviens hier, il avait dit que Jérémy, que c'était sa fête, hein, si je dis pas de bêtises.
Ah oui, c'est sa fête.
Merci Fernando.
Ah, c'est un peu, oui, tu vois, comme quoi il retient. C'est la fête de Jérémy aujourd'hui, c'est la Saint-Jérémy et c'est lui qui m'offre un brin de muguet. Alors vraiment, hein.
Moi, Jérémy, je lui fais.
Ça lui fait plaisir d'offrir.
Je lui sers une bonne poignée de main, puisque Jérémy également, comme toi, Vanessa, vous êtes géniaux tous les deux, vous êtes bien complémentaires. Et puis voilà. Et ne change rien tous les deux, hein.
Merci beaucoup, Fernando. T'es un amour. Ben écoute, on t'aime très fort, je t'embrasse très fort également. Et puis reviens vite. D'accord.
Ouais, ouais. Bah voilà. Bah avant de raccrocher, bah je remercie encore tous les messages de soutien des personnes qui disent de moi. Ça me touche énormément.
C'est normal.
Et voilà. Et à Fatima et à d'autres, hein, je remercie énormément. Et puis voilà. Et puis je ne sais pas quoi dire.
Et tu reviens très vite.
Ouais. Puis gros bisous. Et puis au fait, je voulais dire aussi que avant de raccrocher, c'est triste. Hein, c'est la petite fille qui s'est passée. C'est dégueulasse.
C'est l'horreur. Vraiment.
Et je soutiens également aussi à ses parents, hein, que
pauvres parents, vraiment. Pauvres parents.
Oui, parce que c'est ça aux familles des victimes.
Quel calvaire.
Je pense surtout. Hein.
Bien sûr, c'est le calvaire pour eux. On est tout cœur avec
eux. Je ne crois pas, Vanessa, que je suis insensible à la petite fille, parce que, je suis occupée dans mes soucis personnels, mais.
Oui, mais je sais bien que tu es insensible.
Je garde mon cœur, hein.
Je
garde mon grand cœur.
Je sais que tu es sensible, Fernando. T'inquiète pas que je l'ai décelé déjà chez toi. Je t'embrasse très, très fort. Gros bisous.
À toi, j'étais content une fois de plus te parler.
Moi aussi. Et à très vite, Fernando.
Je t'aime beaucoup. Allez, bisous.
Moi aussi, je t'aime très fort. À bientôt, Fernando.
Allez, bisous, hein. Au revoir.
À bientôt. Merci. Au revoir. 01 53 48 3000. Allez, on se réveille, on vient. On parle de ce qu'on veut, hein. Voilà. Venez parler de votre histoire, videz votre cœur, ou d'un sujet d'actualité, peu importe. Poussez un coup de cœur, un coup de gueule, c'est permis sur Beurre FM. Mais en attendant, on va passer à une petite pause et on revient avec vos appels. À tout de suite.
Un sujet à évoquer, une question à poser, vous avez la parole au 01 53 48 3000.
Et oui, 01 53 48 3000. Allez, on se réveille, c'est Ramolo du côté du standard le 1er mai. Ok, mais le 1er mai, on est là, nous. Allez, on va accueillir Jean-Luc qui nous appelle de Grenoble. Bonsoir Jean-Luc.
Oui, bonsoir Vanessa.
Bienvenue.
Merci, bonsoir à toutes et à tous. Comment ça va?
Oh, très bien, merci.
Super.
Alors.
Oui, j'appelle par rapport à Fernando.
Oui.
Je suis très content de l'avoir entendu ce soir.
Oui.
Parce que j'ai préparé quelque chose pour lui. Parce qu'il nous parle souvent de sa maman, de son émotion, etc. Oui. Et je le comprends parce que j'ai perdu mon père il y a 4 ans.
Ah.
Et c'est vrai que c'est pas facile, quoi.
T'es à son âme, oui, c'est pas facile.
Voilà. Donc, vraiment, je suis tout cœur avec lui.
Aïe, aïe, aïe.
Et du coup, j'aimerais lire un texte que j'ai trouvé très beau et qui lui correspond bien, je trouve. J'espère qu'il l'aimera.
Oui.
Voilà, est-ce que je peux le lire?
Oui, mais bien sûr.
D'accord.
Oui, j'écoute.
Voilà. Entends-tu les tambours, Fernando? Je me rappelle qu'il y a longtemps, nous avons eu une autre nuit étoilée comme celle-là. À la lumière du feu, Fernando, tu chantonnais pour toi-même et grattais doucement ta guitare. J'entendais les tambours éloignés et les sons des appels du clairon me parvenaient de loin. Ils étaient plus près maintenant, Fernando. Chaque heure, chaque minute semblait durer une éternité. J'avais si peur, Fernando. Nous étions jeunes et pleins de vie et aucun de nous n'était préparé à mourir. Et je n'ai pas honte de dire que les rugissements des fusils et des canons m'ont amené au bord des larmes. Il y avait de la magie dans l'air cette nuit-là. Les étoiles brillaient, Fernando. Elles brillaient là pour toi et moi, pour la liberté, Fernando. Bien que je n'aurais jamais cru que nous puissions perdre, je n'ai aucun regret. Si c'était à refaire, je le referais, mon ami Fernando. Maintenant, nous sommes vieux et grisonnants, Fernando. Et depuis des années, je n'ai pas eu de fusil entre tes mains. Je n'ai pas vu de fusil entre tes mains, pardon. Entends-tu les tambours, Fernando? Te rappelles-tu encore de la nuit effroyable où nous avons traversé le Rio Grande? Je peux le voir dans tes yeux, à quel point tu étais fier de te battre pour la liberté de ce pays. Voilà.
Tu connaissais... Ah, je ne sais pas que tu le connaissais, Fernando. Vous avez traversé le Rio Grande, tout ça.
Fernando, non, j'ai juste entendu à la libre antenne.
Oui, non, mais je plaisante. Ah, d'accord. Parce que c'est vrai que c'est un très joli poème et vraiment c'est magnifique. Mais quand on l'entend, on a l'impression que vous connaissez. Je trouve ça magnifique.
Bah oui, je me suis dit, tiens, on dirait c'est subtil, une personne c'est qui connaît Fernando, sa mère ou une amie comme toi ou autre qui parle.
Oui, donc c'est comme si c'est vrai.
Voilà.
En tout cas, c'est très gentil, c'est une belle attention. Et je suis sûre, parce que connaissant notre ami Fernando à travers ses appels, ses interventions, surtout à l'antenne, eh bien, je reste persuadée qu'il est très sensible à ton poème.
Bah oui. Vraiment. Alors, petite devinette, je sais pas si vous aimez les devinettes. Moi, j'aime bien jouer.
Moi j'aime bien, mais je les trouve jamais. Alors, je trouve jamais. Hein,
c'est un texte très connu, mais à l'origine, il est en anglais.
Ah, alors ça va être difficile. Alors si tu
c'est une chanson. Ça vous dit rien?
Une chanson? Ben non. C'est la devinette? Ça fait partie?
C'est de qui? C'est quelle chanson?
Ben, t'as rien dit encore.
Attends, on n'a pas compris. Vas-y, recommence.
D'accord. En fait, c'est la traduction d'une chanson en anglais.
Sing.
Voilà. Sting?
Sing. Non. Sting ou sing?
Sing.
Sing, c'est ouais, chanson. Sting, c'est un chanteur, oui.
Ah,
ouais,
moi, je connais Sing Away. Non, non. Chantons sous la pluie.
Voilà. Non, en fait, ce serait sympa aussi pour Fernando si vous puissiez, si vous pouviez, pardon, passer cette chanson à l'antenne.
Mais c'est qu'on peut pas. C'est parce que c'est pas une...
Ah oui, oh là là.
Tiens, rien. Non, non, c'est parce que les sons sont déjà enregistrés dans la journée et nous, on est là, enfin, Jérémy appuie sur un bouton et puis ça part, quoi. Mais c'est pas nous qui avons.
Qui fait rien, là.
Voilà. Non, il fait beaucoup de choses. Mais concernant le son, voilà. Mais sinon, c'est vrai que c'est lui qui réalise quand même l'émission, oui. Donc c'est très compliqué. Mais concernant le son, c'est pas nous. On n'a pas du tout la même mise sur les sons. Parce que c'est des sons qui sont déjà programmés, hein, par des programmateurs. Ils sont payés pour ça d'abord, hein.
Bah oui.
Bah attendez, on va pas les payer pour rien non plus.
Alors si Fernando nous écoute, bah en fait c'est une chanson du groupe ABBA. Et qui s'appelle Fernando.
Ah oui, ça me dit quelque chose. Fernando.
Fernando. Ah ouais. I remember long ago another star we like to steal. Na 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 na. C'est une belle chanson.
Ah ouais, ça me dit quelque chose. ABBA, c'est vrai.
Donc ABBA, Fernando.
Ah bah écoute, ce soir, vraiment Fernando, je pense qu'il est aux anges là. Il est apaisé. Oui.
Passer un tout petit message, c'est que j'ai lu aussi dans un livre une très belle phrase, c'est que les amis sont une tour de garde. Mmh. Et en fait, j'espère qu'il a au moins un ou une excellente amie sur qui il peut compter dans son entourage. Voilà.
Il a nous déjà.
Voilà.
Il a nous. Et on l'aime très fort. Merci Jean-Luc. Merci en tout cas pour ton grand cœur. Voilà. Et reviens.
Ok.
D'accord. Merci. Gros bisous. Bonne soirée Jean-Luc.
Salut Jérémy. Salut à toutes et à tous.
Salut Jean-Luc. Merci. Salut.
Ah Jean-Luc, c'est un poète. Hein. C'est un c'est un romantique. Je trouve. Ah oui, les poèmes, les chansons, tout ça, c'est un artiste. Voilà, moi j'aime beaucoup. Allez, on va aller du côté de Lyon. Rabiha, bonsoir Rabiha.
Bonsoir Vanessa, c'est Sabiha, pas Rabiha.
Pardon. Sabiha, bon c'est pas grave, on va rectifier. Sabiha, voilà, non, c'est pas Kif-Kif, on va pas écorcher ton prénom, ça y est, on a rectifié. Bonsoir Sabiha, bienvenue.
Merci à vous. Et à Jérémy qui est toute la soirée derrière le téléphone et il nous fait tout se passer.
Le téléphone et la table de réa, hein, parce que la table de réalisation, il y a plein de boutons. Je ne sais pas comment il fait pour s'en sortir. En plus, je vais compter les écrans. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 9 écrans, voilà.
Bravo.
Moi, j'en ai 3, il y en a 9.
dans sa voix, on sent que c'est un homme très patient.
Très gentil, surtout. Moi, ce soir, vraiment, je suis gâtée. Il m'a offert un joli brin de muguet qui va me porter bonheur.
Vous le méritez.
C'est gentil. Merci, Sabiha.
Voilà, vous le méritez.
Et à Texaha, merci
vous
beaucoup.
Vous donnez des sourires aux gens. Vous les réconfortez. Par contre, des fois, il y a des auditeurs qui prennent beaucoup l'antenne et en attendant, il y a des personnes derrière eux. Normalement, ça doit être court. Donner des avis et tranquille et écouter. Il y a une qui me tape sur le système nerveux, qui appelle, et l'autre fois, quand vous l'avez disputé en parlant de Marine Le Pen et tout, je vous tire chapeau. Voilà.
Merci.
Et elle croit que, franchement, tout en m'excusant en français, il y a des bons et des mauvais, on ne nous aime pas. Point final. Surtout pas Marine Le Pen. Oula. Elle a dépassé les limites, cette dame. Franchement.
Ah, c'est...
Il faut, politique, on est dans un pays, il faut reconnaître, on est des Français, c'est vrai, mais on est dans un pays qui n'est pas le nôtre, on doit respecter, on doit avoir un respect. C'est tout ce qu'on doit dire.
Mais bien entendu, bien sûr qu'il
faut... Quand on franchit la porte de chez nous, on fait ce qu'on veut chez nous. On prie, on fait tout ce qu'on veut, ou on boit, personne, on n'a pas de compte à rendre à
voilà.
Personne.
Oui.
Mais quand on est à l'extérieur, on respecte.
Bah oui, moi je suis d'accord. Et d'ailleurs,
gens qui viennent chez nous, dans notre pays, doivent nous respecter. Point final.
On dit bien que la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres.
Ah bah oui.
C'est vrai.
Ah bah oui.
Et dans des pays, par exemple, comme tu dis, dans les pays du Maghreb, les pays musulmans, je pense que beaucoup ne se permettent pas de faire là-bas ce qu'ils font ici. Il faut appeler un chat un chat. Hein,
ben
voilà.
Oui.
Je vois mal, par exemple, des personnes se balader, par exemple, dans des tenues très légères, en Arabie Saoudite. D'abord, c'est interdit, ça, ils auraient des problèmes, mais bon, dans des pays comme ça, et je pense que, et d'ailleurs, on le voit, hein, même les hôtesses de l'air, les journalistes, quand on y a des reportages en direct, on les voit, les journalistes femmes, avec une écharpe jetée comme ça sur la tête, par respect pour le pays où elles vont faire le reportage, elles vont travailler, que ce soit en Iran, en Arabie Saoudite.
Mais oui, comme les Français aussi. Moi, je les ai vus étant petite en Algérie. Eh ben, ils rentraient pas à l'église sans mettre le foulard et les bas, le foulard sur la tête et les bas dans les pieds, dans les pieds. Point final. On respecte un pays. Mmh. Et point final. Et il faut qu'on donne une bonne image. C'est tout.
Oui, mais...
Et je serais fière des Algériens. Moi, je parle des Algériens, je ne parle pas d'autres.
Ah bon?
Ah oui.
D'accord.
Parce que franchement, il faut donner une bonne éducation à leurs enfants. Il faut leur dire, étudier, profiter.
Ben oui, les études, c'est important. Les
Bien
études,
sûr.
C'est très important parce que c'est la meilleure... Enfin, les meilleures armes, ce sont les diplômes pour s'en sortir dans la vie.
Surtout qu'ici, le programme n'est pas chargé, ce que je leur dis, je vous ramène des cahiers, comment ils apprennent la sixième. En Algérie, par exemple, c'est le bac en France.
Ah oui?
Ah bah oui, c'est très très dur.
Oh là là, ah ouais.
Voilà, ils ont ajouté encore la langue berbère aux enfants de 6 ans.
Mmh. Oui, mais c'est pas imposé, je crois, non? C'est pour celui
je
qui veut.
Je sais pas, pour le moment, c'est pas officiel. Mais non.
C'est pour les enfants qui veulent.
Ben oui. Étudier les jeunes, étudier.
C'est comme ici par exemple le latin, c'est pas obligatoire.
Bah
oui.
Oui.
Pas obligatoire, mais bon, chacun fait comme il veut après tout, c'est une langue de plus. Et puis tu sais, je vais te dire une chose, Sabeha, de toi
oui,
moi, très très honnêtement. La langue berbère, elle est très parlée dans les pays du Maghreb.
Oui.
Donc alors donc c'est une langue je pense qu'il faut vraiment promouvoir et mettre en avant parce que elle est parlée par 99% des habitants du Maghreb. Dis-moi, très honnêtement, il y a des décennies en arrière, qui parlait arabe dans les pays du Maghreb? Moi, je sais que ma mère ne parle pas l'arabe littéraire, mes parents, mes tantes, mes oncles, il y a personne qui est autour de moi qui n'a jamais parlé l'arabe littéraire. Moi-même, je le parle pas et je le comprends pas. Donc je vais jusqu'au bout, après je te laisserai, tu verras. Comme ça, on va se comprendre. Alors, donc l'arabe littéraire. C'est une jolie langue, hein. Je dis pas que c'est pas beau.
Ah bah oui.
C'est une belle langue, mais c'est pas la langue des pays du Maghreb, quand même. C'est une langue qui, qu'on le veuille ou pas, c'est une langue qui a été rapportée. Et qui a été rapportée, ces dernières années, quoi. Enfin, il y a 50 ans. Mais sinon, avant, les Maghrébins parlaient, berbère. Quand je dis berbère, ils parlaient le berbère. Il y avait plusieurs langues berbères. Et, par exemple, l'algérien ou le marocain, le tunisien. L'algérien, par exemple, je sais pas. Moi, quand je dis une orange, j'ai toujours dit tchéna. J'ai jamais dit el bortoqel. Alors donc j'ai appris que tchéna, on disait el bortoqel. Alors t'imagines un enfant à l'époque, hein, quand ça a été arabisé, mais à fond, à outrance, c'était bezef quand même. Alors donc un enfant qui allait chez lui est né avec Tina qui est l'orange et qui va à l'école, on lui dit non, t'oublies, t'as pas le droit de parler comme ça. C'est El Bortorel. Il sort de l'école, il est perdu cet enfant, parce qu'avec ses camarades, il va dire Tchina. À la maison, il va dire Tchina. Chez le marchand, il va dire Tchina. Et à l'école, alors l'école, c'est devenu un territoire qui n'est pas sur le territoire maghrébin algérien, quoi. C'est un territoire étranger presque, puisque il faut parler une langue qui est étrangère, qui n'est pas ta langue maternelle. Moi, je suis désolée. La langue française, c'est un acquis. C'est une langue de science. C'est une langue internationale. C'est une langue, même si c'était la langue à l'époque, on va dire entre guillemets, de l'ennemi. Parce que pourquoi? Parce qu'il y a eu une guerre et il y avait le colonisateur. Maintenant, la guerre s'est terminée. L'indépendance, elle a été acquise. La France et l'Algérie sont des pays amis et cette langue, c'est un acquis, voilà. Et pourquoi pas avoir continué, parce que c'est une langue internationale avec laquelle on peut échanger en seconde langue, je dis bien, et première langue déjà. Ça aurait été bien de continuer avec et le berbère et la langue algérien ou marocain, enfin ces langues qui sont utilisées par les parents
et en Algérie,
c'est dommage.
Par exemple, nous les Algériens, on parle du français cassé, on dit table. On dit ce qu'il est,
quand. Oui, mais c'est notre parler.
Voilà.
Mais c'est notre parler.
Pourquoi on réussit en France et on s'intègre facilement les Algériens qu'aux autres? Parce qu'on a déjà, on a les bases.
Les bases du français. Mais va les petits enfants algériens aujourd'hui quand ils viennent en France, eh ben ils parlent un français cassé. Et ils ont du mal à comprendre. Moi quand je vais en Algérie, je vois les enfants. Ils ont du mal à parler. Ils comprennent pas le français. 20 ans en arrière, quand je parlais avec les enfants des mêmes écoles, c'est-à-dire des enfants de CE1, CE2, etc. Oui. Ou de la sixième. Eh bien quand je parlais avec eux du collège, ils parlaient français. Ils parlaient français. Et ils parlaient un bon français. Mais aujourd'hui, les enfants ne parlent pas français.
Oui, ça commence à se revenir.
Ils ne parlent pas. Ils parlent un peu anglais, un peu français, un peu c'est tchouk-tchouka, c'est ceci, c'est cela.
Ouais.
Et l'arabe littéraire qui est imposé dans les écoles. Mais une fois qu'ils sont sortis de l'école, ça leur sert à rien. Puisque à l'extérieur, on ne parle pas l'arabe littéraire.
Nous, les Maghrébins, on est.
Et quand ils vont dans le monde, ils ne parlent pas. Je veux dire, quand ils viennent en France ou quand s'ils veulent faire des études en France, au Canada, etc., ils vont parler ou anglais ou français, quoi, enfin.
Ouais,
je sais pas, excuse-moi, mais pour moi c'est le BA bas. Ça, il faut reconnaître que ça a été, je me souviens de l'école fondamentale, ça a été à l'époque les parents voyaient rouge, hein, ils étaient pas contents parce que ça a été arabisé d'un coup d'un seul.
Subitement. Oui.
Et ça a formé un espèce de fossé entre les parents, la rue, etc., la culture et. Et l'école qui est devenue une zone, inconnue, qui fait peur parce que les parents, pour eux, dans les écoles, on leur vole leur enfant parce qu'on leur apprend une langue qui n'est pas la leur. Enfin, mais moi, je veux bien qu'ils l'apprennent en troisième langue. Pardon.
Ici, en France, on nous appelle les Arabes. Moi, je déteste ça. On n'est pas des Arabes, on est des Maghrébins.
Oui, mais on parle arabe. Alors, voilà.
Voilà.
Puisqu'on a imposé l'arabe dans les écoles arabes, dans les écoles.
On n'est pas des arabes, Arabes, c'est ceux de l'Arabie Saoudite. Moi, je parle maghrébin, d'où l'Algérie.
Africain.
D'où Tunis.
Africain, parce que c'est le continent. C'est le continent. Voilà. Les Français sont européens, les Italiens sont européens, les Espagnols sont européens, les Algériens, tous les Maghrébins, Algériens, ouais. Tunisiens, Marocains, sont africains. On s'en fait qu'ils soient nord ou pas, mais africains. C'est l'Afrique.
Ce qu'ils disent, c'est les Arabes. Non, désolé, on n'est pas des Arabes.
Quand tu vois que la langue officielle est l'arabe, Moi, franchement, j'ai jamais compris ce truc. Vraiment, j'ai pas compris parce que ça a déphasé. Et aujourd'hui, ces enfants, le français à l'époque, il y a 20 ans, 30 ans en arrière, le parlaient très très bien. Mais quand ils voyageaient, ils pouvaient faire des études à l'extérieur et ça se passait bien. Et aujourd'hui, ceux qui mettent leurs enfants dans des écoles privées, parce qu'il y a des écoles privées payantes là-bas, très chères. Donc ceux qui ont les moyens, leurs enfants, ils ont cette chance d'avoir en plus cette langue, de bien la maîtriser. Et puis les enfants du peuple, les autres, le français, c'est devenu une langue seconde zone, quoi. Et je trouve que c'est dommage.
Maintenant, ça revient en troisième année. Déjà, ils commencent à faire du français.
Troisième
année. C'est les enfants qui sont nés en 60, 72, 70, c'est là où ça a stagné. C'était l'arabe, 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 l'arabe,
ah,
même
ouais.
dehors. Même dehors, il y a d'autres...
C'est pour ça que je te disais que l'enseignement de la langue berbère, eh ben, c'est quelque chose de normal. Enfin, on revient à la normalité, tu vois.
Ouais.
Pourtant, moi, je maîtrise pas le berbère, hein, mais je trouve que c'est tout à fait normal que, parce que ça fait partie... disons des couleurs du pays, ça fait partie de l'étiquette du pays, ça fait partie de des origines, de la culture, et ça, un pays, faut pas le déculturer, parce que si on le dénature, ouais, les populations ne se retrouvent plus. Ah oui, ils perdent
ses valeurs.
Ben oui, et oui, parce que d'ailleurs aujourd'hui, eh bien, on le voit bien dans certains endroits, certaines contrées, même les vêtements aujourd'hui ont changé. Moi, j'ai beaucoup de proches, des amis, etc., qui me racontent. Hier, je parlais avec une amie, eh bien, qui est issue de Kabylie, de la grande Kabylie. Elle me dit de là où elle est, de la montagne où elle est. Elle m'a donné le nom. Elle me dit aujourd'hui, par exemple, avant, nous avions notre culture, les vêtements, etc. C'était quelque chose de très prisé, de très important, et nous étions très jaloux de tout ça, et on voulait le garder. Non. Et aujourd'hui, eh ben, il y a un autre vêtement qui s'est imposé. Ben voilà.
Non, c'est pas il a été imposé, c'est le mélange.
Qui s'est imposé.
Par exemple, Vanessa, parce que même avant, une Kabyle épouse un Kabyle, ils restent toujours dans leur dachra, dans leur douar, comme ça, les cousins, cousines, donc ils perdent pas. Maintenant, il y a un mélange. Par exemple, nous, le Gondola Constantinois, c'est dans l'Est. Maintenant, vous la trouvez à Alger. Kerek, où c'était algérois.
Ah oui, mais ça, c'est pas grave, ça reste algérien, ma chérie.
Oui.
Ah non, mais ça, je parle pas de ça. Ça reste algérois. Le Kerekou, qu'on le mette en Kabylie. Moi, j'ai assisté à des mariages en Kabylie, mettre le Kerekou, hein. Et ça, oui, je te parle de 30 ans en arrière, hein. Ah si, il y a 30 ans en arrière, parce que j'ai un membre une personne de ma famille qui est mariée avec quelqu'un de Kabylie, de Béjaïa. Eh ben, il mettait le Kerekou. Alors, donc, le Kerekou, oui, on peut le mettre. Et, à Alger, et, autour, je vois bien, des personnes qui ne sont pas originaires de la région de Kabylie, dans les mariages, parce qu'on se change plusieurs fois, elles se changent plusieurs fois, et il y a la traditionnelle robe kabyle avec la fauta, tu vois, la fauta, oui, et le foulard, voilà, etc., oui, et les bijoux, oui, oui, kabyles. Donc quand elles se changent, et ça, je l'ai toujours vu dans les mariages, hein, j'ai, oui, toujours vu mettre par exemple la robe constantinoise ou oranaise kabyle. Non, à partir du moment, ça reste dans le pays, c'est des traditions, ça fait partie, voilà, les quatre coins du pays, là, il y a aucun souci, puisque ça reste l'Algérie. Mais à partir du moment où il y a un habit qui vient d'ailleurs,
Par exemple, le sari.
Le sari, je trouve que c'est joli, c'est sexy.
Oui, c'est ça.
Non, mais ça va au-delà. Il y a des habits qui viennent, par exemple, tu parlais d'Arabie, qui viennent d'Arabie et qui se sont, ouais, imposés. Et, par exemple, en Kabylie, les gens ne comprennent pas. Voilà. Ils comprennent pas parce que du jour au lendemain, ça s'est imposé. Tu comprends? Oui. C'est pour ça que ces traditions, il faut les garder, parce que je n'ai jamais vu, des femmes d'Arabie. Quand je dis Arabie, que ce soit l'Arabie Saoudite, Koweït, tout ça, les Émirats, par exemple, adopter nos traditions. Mettre la robe kabyle ou la robe constantinoise, ils vont pas mettre ça.
Non.
Tu comprends ce que je veux dire? Donc, une forme d'ignorance et de mépris concernant les traditions maghrébines de leur part, parce qu'ils peut-être ils savent même pas qu'on existe, je sais pas. Mais, par contre... Eh bien, en Algérie, certaines femmes, eh bien, ont adopté leur tradition, leurs vêtements traditionnels. Voilà. Donc, je comprends que les gens aujourd'hui ont peur de perdre leurs racines, leur identité. Et ça, je comprends, vois-tu?
Ah ben oui. Moi aussi,
j'ai beaucoup réfléchi là-dessus. J'ai beaucoup parlé avec les gens, et là, je leur donne complètement raison, parce que c'est perdre son identité. Je pense qu'on a tout perdu là.
Comme le hijab en Algérie, moi, je vois pas des femmes avec un bon hijab, le normal hijab, comme ils disent Dieu, le hijab. Mais c'est pas un djinn et une liquette, c'est pas un hijab. Revenons alors à nos ancêtres. Alger, c'est le Hayek, Marana et l'Est, le Mlaya.
Mlaya, oui, à cette
île. Et ça serait agréable.
Ah. Oui, ça fait partie des traditions.
Voilà.
C'est des traditions.
Moi, j'aimerais bien ça.
Mais maintenant, les traditions sont en train de se perdre. Alors donc, les gens bradent les traditions de leurs ancêtres.
Oui.
Qui quand même ont cette richesse et qui cette transmission, ces valeurs qu'ils nous ont transmises, ils bradent ça, ils jettent ça d'un revers de main pour adopter des traditions qui viennent de très loin, de pays où là-bas, eh ben, ils en ont que faire de nos traditions, quoi, parce que.
Ouais, on n'a plus rien, comme les mariages, comme les fêtes, comme les cérémonies pour les obsèques, tout ça.
C'est dommage.
Je sais pas. Ah oui, c'est très dommage.
Les Moi, je suis très triste hein, de tout ça, vraiment, parce que.
De tout détruire sans le savoir.
Ah oui.
C'est le manque de savoir.
Ah oui, maintenant, tu sais, il y en a qui te disent chanter, c'est pas bien. Dans les mariages, faire la fête, c'est pas bien. Non, je préfère chanter que de pleurer, parce que la vie, elle se charge de ça. Sabeha, je peux te reprendre juste après, on a une petite pause.
Je te laisse, Vanessa.
C'est vrai, je t'embrasse très fort, alors.
Moi aussi très fort.
À bientôt, ma chérie.
À Jérémy, et je vous embrasse beaucoup. Continuez bien dans cette
Merci, Sabeha.
Direction.
C'est revoir, très gentil, à bientôt. Au revoir, Sabeha, à bientôt.
À bientôt, ma chérie.
Bisous, Merci bisous. Beaucoup. On marque ciao, une petite ciao. Pause et on revient avec vos appels. À tout de suite.
La libre antenne de Vanessa revient dans un instant. Un sujet à évoquer ? Une question à poser ? Vous avez la parole au 01 53 48 3000.
Et oui, vous l'avez la parole jusqu'à minuit au 01 53 48 3000. Allez, on va aller du côté de Paris. Ah bah il est parti Khalil. Bah alors Khalil, reviens. J'ai les mêmes à la radio. Il y avait une pub à l'époque.
Léon.
Léon, reviens, Léon j'ai les mêmes à la maison.
Ah, c'est ça, c'était pour des raviolis.
Ouais. C'était pas mal, c'était mignon.
C'était drôle.
Hein ouais, c'était drôle. Elles sont moins drôles aujourd'hui, les pubs, si ? Ah, bah si, certaines, je sais pas.
Bah si, elles sont faites fait exprès d'être drôles pour qu'on s'en souvienne.
Il ouais. y en a qui sont drôles aussi. Je sais plus, j'en ai vu une dernièrement. J'étais croulée de rire. Je sais plus ce que c'était, j'ai pas de mémoire.
Ah, moi non plus. Je sais que c'est drôle pour les ouais. opérateurs téléphoniques, ça c'est drôle. Pour EDF et tout ça, là.
Enfin, ouais. Je sais EDF, plus, mais il y en a une, là, qui tourne en ce moment.
Ils sont scénarisés maintenant, ils sont très scénarisés aussi.
Voilà, tout à fait. Ah, non, mais c'est vrai que c'est des petits scénars, quoi.
C'est ça.
Bah voilà. Bon, allez, on va accueillir Nora, qui nous appelle de Champigny. Bonsoir, Manono.
Oui, bonsoir, chère Vanessa. Ah, toi aussi, tu t'es mis à Nono.
Ah bah oui, Nono. Bonsoir, ma Nono.
Elle veut dire non. Nom, hein.
Ah bah ouais, Jérémy, c'est mon petit nom, je t'ai habituée maintenant. Nono. Eh oui.
Bienvenue nono, en tout cas, ma puce.
Eh oui, merci beaucoup, Vanessa.
Alors
merci. Ben voilà, ben, je voulais venir aux nouvelles. Hein. Comment va l'équipe?
Ah, l'équipe, elle se porte bien. Moi, je suis très bien aujourd'hui. Je suis très heureuse parce que j'ai reçu du bonheur, mon petit brin de muguet. Je suis sûre qu'il va me porter bonheur, celui-là.
Ah, bah super. Bah, et t'es super galant, Jérémy. Hein. On aimerait avoir des hommes plus souvent comme toi. Hein.
Eh oui.
Ah non, tu l'auras pas. Celui-là, tu l'auras pas.
Ah, bah, il est déjà pris.
Je suis fidèle.
Il est déjà pris. Hein. Ça y est,
je sais pas.
Tu me l'as pas dit.
Comment ?
Ah, bah, il va pas.
Tu t'es déjà casé, tu me l'as pas dit.
Ah, bah, non, mais professionnellement, oui.
Mais voilà, c'est ça. C'est ça aussi.
Ah, la belle équipe, on change pas la dream.
Pour le reste, on sait pas et on cherche pas à savoir. Moi, j'ai jamais posé de questions, Jérémy.
Hey, le jour où tu te maries, tu m'invites.
Hein. Il est fidèle professionnellement. Alors vraiment, c'est pas donné à tout le monde, hein, vraiment, hein, croyez-moi. Hein.
Bah, je suis fidèle dans mes trois principes, professionnel, amoureux et amitié, et amicalement.
Bah, écoute, bravo. Voilà. Magnifique.
Oh, c'est top alors.
Après, moi, j'ai pas de fidélité pour, par exemple, un coiffeur, pour les boutiques, pour.
Ah, oui.
Là, j'ai moins de fidélité pour ça.
Bah oui, bah oui. Mais ça,
parce que certains, ils vont toujours
même coiffeur. C'est au coup de cœur.
Il faut comparer les prix surtout.
Et il est fidèle. Non, pas que ça. Il y a aussi la qualité.
C'est ça, voilà.
Et il est fidèle. Oui, il est fidèle à une chose. Qualité. Ça, c'est indéniable. La tarte citron. Ça, il déroge
c'est
pas
vrai.
Là-dessus.
Ah, c'est vrai.
La tarte aux pommes, elle prendra pas le dessus,
ah,
celle-là.
En général, en plus, c'est le flan qui vient en dessous de la tarte citron à la rigueur, quoi.
Ouais, ça.
J'ai la tarte noix de coco framboise aussi.
Ah, c'est pas vrai. Notre coco. Framboise en plus.
Ouais. Ah, ouais, ça, non. Vous allez me donner envie, là, le soir, là.
Sinon.
Oui,
Nora.
Oui, j'écoutais la dame, là, qui parlait, mais je suis tout à fait d'accord. Hein, faut se cultiver, là, pour sortir de son trou. Et c'est vrai en plus, hein, l'école, ce serait bien que les jeunes y comprennent, quoi. L'école, c'est pas seulement un lieu où on va bavarder avec les copains, copines, alors qu'ils ont le temps de le faire en dehors, mais c'est aussi un lieu, voilà, où ils peuvent bien travailler, bien réussir, et pourquoi pas après prendre leur petite indépendance, quoi.
C'est important.
Donc, voilà, ouais, c'est important. Et c'est dommage que les jeunes adolescents aujourd'hui, ils le comprennent pas. C'est dommage. Moi, je me souviens, il y a très longtemps, on pouvait être une petite trentaine d'élèves, même un peu plus, hein, parfois 36, dans une même classe, personne ne parlait. On prenait des notes, on écoutait, on participait, mais personne ne parlait. Aujourd'hui, c'est impossible de trouver ça. Aujourd'hui, dans une école, c'est impossible.
Ben oui, les mentalités ont changé et autre temps, autre mœurs, comme on dit. Enfin, c'est pas toujours en mieux, mais bon.
Avant, je pense qu'on avait plus la hargne de réussir pour s'en sortir. Je pense, hein. On avait vraiment plus de... On était vraiment déterminés, quoi. Alors qu'aujourd'hui, t'as l'impression qu'il faut servir aux jeunes tout sur un petit plateau. limite, ils passent une commande comme s'ils étaient au resto, comme s'ils étaient je ne sais où, au McDo, je sais pas quoi, KFC ou je sais pas quoi. Il faut une troisième marque, je suis en train de chercher.
C'est des enfants gâtés.
Quick.
Exact.
Gâtés pourris. Aujourd'hui.
Ah, ouais, malheureusement.
Oui, non, mais c'est ça, parce qu'il y a trop de produits qui sont proposés, il y a trop, quoi. Et c'est vrai que la technologie aujourd'hui, elle est partout, on la voit tout autour de nous. Bon, c'est pour les vêtements, c'est pareil, les vêtements, les chaussures, tout ça. Je veux dire, c'est à profusion autour de soi. Donc, ce qui fait que, bon, il y a même plus de ce bonheur de pouvoir d'avoir quelque chose de neuf et de se dire ce sera pour tel événement je vais me faire plaisir, etc. Par exemple l'Aïd, tiens, puisque bientôt c'est Ramadan, l'Aïd, eh bien les enfants avant ont porté un vêtement neuf, de la tête aux pieds, on était tout neuf.
Ouais, ouais.
Donc les chaussures, tout ça. Oh, quelle joie, quel bonheur nous avions de porter. C'est vrai, même si, bon, tous les parents ne roulaient pas sur l'or à l'époque parce que tout le monde était aligné à la même enseigne, souvent, hein. Voilà, tout le monde était presque au même niveau de vie. Et quand les enfants, eh bien, avaient quelque chose de neuf, on voyait la joie dans le regard, sur leur visage, ça, tout se lisait. Et voilà. Alors qu'aujourd'hui, eh bien, il y a plus cette petite étincelle au fond d'eux, ce bonheur. Pourquoi ? Parce qu'ils ont tout dans l'instant.
C'est vrai. Et c'est dommage, hein. C'est dommage parce que les valeurs familiales.
Il n'y a plus le monde.
Avec cette société de consommation aussi.
Oui. Hein. Il y a une chanson qui dit donnez-moi l'envie d'avoir envie.
De Johnny.
Ben voilà, faudrait donner l'envie d'avoir envie.
Mais c'est important l'envie d'avoir envie.
Envie de travailler, l'envie de réussir. C'est vrai.
Aujourd'hui, il n'y a plus cette envie d'avoir envie puisque tout arrive. Donc l'envie, elle n'existe plus. Elle n'est plus là.
Exact.
C'est plus. C'est peut-être ça aussi.
J'ai mis une petite nuance, je suis pas trop d'accord avec la dame tout à l'heure, juste avant moi en fait, de Lyon.
Sabiha, oui.
Oui. Je suis pas d'accord avec elle sur un point concernant les Maghrébins. La généralisée, elle dit que les Maghrébins ne savent pas parler l'arabe. Moi, au contraire, j'ai observé que par exemple, des Marocains, des Tunisiens parlent beaucoup mieux l'arabe classique hein, que par exemple des Algériens.
Oui, parce qu'ils l'étudient depuis bien avant les Algériens dans leur école, leurs écoles, parce que l'Algérie, durant la colonisation, eh bien, on leur interdisait de lire l'arabe, etc., et d'écrire et d'apprendre, alors que parce que c'était une colonisation. Le Maroc, c'était un protectorat, c'est pas pareil. Donc il y avait des souplesses, on va dire, au point de vue de l'apprentissage des langues, etc. Donc voilà.
Et en moins Vanessa, il pourrait quand même.
Mais est-ce que toi, tu es d'accord, justement, quand elle disait l'auditrice, là où j'ai rejoint, c'était quand elle disait, on a parlé de langue dans les écoles. De langue, je parle pour l'Algérie, eh bien, par exemple, d'un coup d'un seul, eh bien, subitement, l'arabe s'est imposé, s'est installé. Dans les écoles, mais à l'extérieur, c'est vrai que les panneaux sont en arabe, on n'y comprend rien, sauf ceux qui ont étudié l'arabe, mais comme ça a été fait subitement, très rapidement et sans que les gens ne soient préparés à l'époque, eh bien, dans les écoles, du jour au lendemain, on a imposé l'arabe comme langue nationale et comme langue dans les écoles.
Enfin, moi, personnellement, j'ai pas vécu en Algérie ni en Afrique du Nord.
Non, mais sans pour avoir vécu, moi non plus.
Expérience.
Oui, moi non plus, j'ai pas étudié en Algérie, donc je lis pas l'arabe. Mais j'ai mon avis.
En vacances, par exemple, voilà, pour donner juste mon avis, hein, moi j'ai observé que, par exemple, au Bled, ils parlent plus d'Erja, hein, c'est-à-dire l'arabe de tous les jours.
Oui, oui, l'arabe algérien, le dialecte algérien.
Le dialecte algérien, tout à fait, plutôt que l'arabe classique. L'arabe littéraire, il parle pas dehors, hein. Que ce soit les enfants, les adultes, tout âge confondu, hein. Mais que l'arabe.
Même dans les foyers, dans les maisons, chez eux, avec
en
famille.
C'est seulement depuis quelques années qu'à la télé, ils se mettent petit à petit dans certains et pas toutes les chaînes à la parabole à parler un peu en arabe classique, mais c'est pas généralisé, hein.
Si, l'arabe.
Dans les écoles.
Alors, je suis pas d'accord avec toi, parce qu'il y a 20 ans en arrière, eh bien, l'arabe, il y avait que ça à la télévision.
Ah bon?
Ah oui.
Ah bah j'étais pas.
Par contre, depuis qu'il y a eu justement les antennes paraboliques, gens pouvaient suivre des chaînes étrangères où on parlait d'autres langues. Mais à l'époque, c'était imposé. Et le berbère est récent. C'est récent la chaîne berbère en Algérie. C'est depuis certaines revendications, etc. Mais sinon, le berbère n'existait pas à la télévision.
Même à la radio.
Il y avait une radio, si. Il y avait la chaîne 1, la chaîne 3. La chaîne 3, je crois que c'était en français. Chaîne 1 en arabe. Et il y avait une chaîne berbère en radio. Mais à la télévision, non.
Mais imposer... peut-être dans les écoles pour que justement sous couleur politique là-bas en Algérie pour soi-disant permettre aux enfants voilà de qui maîtrisent une langue vivante. Mais quand je vois moi le niveau moi je me souviens j'étais à peine collégienne et quand on allait au Bled la dernière fois que j'étais partie au Bled et que j'étais collégienne c'était en sixième, donc pour te dire j'avais à peine 11 ans 12 ans. Je parlais avec des voisines, l'une d'entre elles avait fait des études d'allemand et d'anglais à la fois, elle étudiait les deux langues, j'avais l'impression d'être presque aussi compétente qu'elle, quoi, en anglais, et certes, quand j'ai fait de l'allemand à partir de la quatrième, franchement, je trouve que c'est pas top au niveau de l'apprentissage des langues vivantes en Algérie, hein.
Mais c'est normal.
Moi, je trouve que c'est pas top.
C'est normal parce que...
Pas les formations, ils sont pas formés.
Ah si, non, ils parlent bien l'anglais, hein. Moi, je te dis tout de suite, ils parlent bien l'anglais, hein. L'anglais est beaucoup mieux maîtrisé.
Les autres langues, c'était pas top, hein.
Oui, mais je parlais de la langue qui est l'identité d'un pays. En France, on parle français parce que c'est la langue du pays. D'accord. Donc, ce qui fait que ça fait partie de l'identité du pays et des citoyens qui composent ce pays. Donc, c'est vrai qu'en Algérie, longtemps, c'est vrai qu'il y a eu ces questions concernant ce problème sociolinguistique qui fait que
c'est Kabyle. Enfin, paraît-il.
Parce que là, on fait des raccourcis. Là, on fait des raccourcis. Là, c'est dans les écoles, parce que le pourquoi du comment dans les écoles, non, dur avec les uns, les autres. Non, lui, il a fait ce qu'il a fait. Maintenant, il y a eu des erreurs de fait, effectivement. Concernant tout ce qui était révolution agraire, pardon, et l'arabe imposé dans les écoles et tout, qui a continué après avec Chedli, Benjdid, mais qui a été encore plus imposé à l'époque. Mais, je veux dire, c'est vrai que, eh bien, il y a eu à un moment donné un malaise linguistique. Il y a eu un malaise, il faut reconnaître, hein, qui a ce malaise-là entraîné un malaise identitaire.
Ouais. Malheureusement, oui. Et ça fait des frictions après, des tensions. Et c'est vrai que il aurait fallu, c'est facile à dire, hein, mais y aller doucement, quoi, pas à pas, progressivement, et pas passer tout de suite peut-être à la langue arabe directement, tenir compte aussi de l'histoire du pays.
Moi, je vais plus loin parce que je suis beaucoup plus catégorique. Je pose la question, pourquoi la langue arabe, par exemple, a pris le dessus de toutes les autres langues alors qu'aucun Algérien ne maîtrisait l'arabe et que c'est pas un pays arabe. C'est un pays, c'est un pays maghrébin, africain,
oui,
berbère,
africain, mais pas, ouais, ouais.
Voilà. Donc pourquoi l'arabe?
Exact. Ouais.
C'est la question.
Ouais,
c'est
vrai,
enfin,
à l'origine, ouais, ouais. Bah peut-être parce que aussi l'Algérie faisait partie de l'Empire ottoman suite à l'expansion de l'Empire ottoman.
Bah oui, alors.
La langue
ottomane
dominée à l'époque. Hein.
C'est des Turcs. Les Ottomans, c'était les Turcs, ma chérie. C'était pas les Arabes. Oh.
Oui, oui, certes, certes.
Ah bah
les
oui.
Ottomans, mais ils
les Ottomans, c'était des Turcs qui n'étaient. Et je vais te dire encore pire.
Pire et la langue arabe aussi.
Mais non.
Était,
mais attends, Nora. Ah,
peut-être avec
Nora. Les Ottomans, et Nora, les Ottomans sont tous sauf arabes. C'est-à-dire que les Turcs ne leur dit pas qu'ils sont arabes parce qu'ils sont pas arabes.
Non, on est d'accord.
Ah
on
bon.
Est d'accord.
D'accord. Je te reprends juste après.
Jusqu'à minuit. C'est la libre antenne de Vanessa sur Beurre FM.
La libre antenne jusqu'à minuit au 01 53 48 3000. Et on revient avec Nora qui nous appelle de Champigny.
Oui, chère Vanessa.
Alors.
Donc, pour être bref, pour laisser la parole aux autres auditeurs.
Je t'en prie, ma chérie, vas-y.
En fait, moi, par exemple, je me souviens, on nous apprenait, voilà, il y avait la dynastie des Abbassides, des Omeyyades. Et il y a un très beau livre qui est écrit par un. Je crois que c'est un doctorant en histoire, Massensen Cherbi, d'ailleurs qui est de la même famille que le chanteur, Allah yarhamo, et il me semble, lui il a écrit un livre justement sur l'Algérie qui explique justement cette diversité socio-linguistique et culturelle, et pour en expliquer justement les origines, les causes et les facteurs, mais vraiment d'un point de vue d'historien. Et c'est vraiment bien écrit, mais ça s'est fait progressivement, effectivement, l'utilisation de la langue arabe, parce qu'à la base c'est vrai que l'Algérie n'était pas arabophone, on est d'accord. Et c'est vrai que ensuite ça s'est davantage cimenté avec l'Empire ottoman, qui a cherché à étendre aussi l'islam, quoi. Donc voilà, c'était bon, et il n'y avait pas que l'Empire ottoman, même avant l'Empire ottoman, les gens voyageaient. Donc voilà, en voyageant, ils apprenaient d'autres langues, ils s'instruisaient. Et d'ailleurs, l'un des premiers pionniers, le père fondateur de l'histoire de la sociologie des sciences humaines, c'est Ibn Khaldoun, lui-même qui d'ailleurs, je crois, était d'origine berbère au Maroc.
C'est juste un peu rapide, voilà. Parce que Jérémy me fait de grands gestes, on a la pause. Oui.
Une petite parenthèse. Jean-Luc, j'aimerais bien que tu m'écrives un poème aussi beau que celui que tu as écrit.
À la jalouse.
Un poème d'amour.
Jean-Luc, alors, voilà. C'est vrai que c'était très gentil de sa part concernant notre ami Fernando, qui en a besoin en ce moment.
Oui, exact.
Hein,
exact.
Voilà.
Il en a besoin, oui, c'est vrai.
Nora, je te fais de gros bisous, ma chérie.
Un vrai poète.
Oui.
Merci.
Je t'embrasse très fort.
Merci,
très bonne
bisous,
soirée, à bientôt.
Merci.
Au revoir. Merci,
ma chérie.
À bientôt. Au revoir. Un petit peu de patience au standard. On va écouter Ayman El Attar. El Attar, voilà, plutôt. Bahébek. Allez, bonne écoute.
حبك مهما زدوي لك وهفضل أقول وعدها كتير بحبك بحبك بحبك
à évoquer, une question à poser, vous avez la parole au 01 53 48 3000.
Et oui, vous l'avez jusqu'à minuit, la parole sur Beurre FM au 01 53 48 3000. On y va, nous sommes le 1er mai et on est là, nous. Hein.
Oui, et en passant, je voulais remercier tous les messages sur la page Facebook de Vanessa. Merci beaucoup à tout le monde. Ben très gentil, vous êtes adorable.
Ben oui, il y a beaucoup de messages à ton égard.
Merci.
Allez, on va aller du côté... Oh ben on reste à Paris. Allez, Fatiha. Bonsoir, Fatiha.
Vanessa, bonsoir.
Bonsoir, bienvenue, Fatiha.
Ben, je te souhaite d'abord une bonne fête du 1er mai.
Merci à toi
c'est
également.
C'est ma fête, oh. Bon,
tu le sais, je m'appelle pas Jérémy.
Jérémy aussi.
Merci,
bien sûr, vous
merci
êtes là,
beaucoup.
Tous les deux, bien sûr. Bien sûr, on vous adore tous les deux. Vous formez une équipe sensationnelle.
Merci.
Alors, pour ne pas accaparer l'antenne, parce que chaque seconde compte pour les autres.
Non, mais il n'y a pas de souci. Voilà. Tu as des choses à dire, va jusqu'au bout.
Eh bien, Vanessa, j'étais un peu occupée, mais j'écoute. J'écoute ton émission, donc Et donc, le sujet dont tu as parlé avec les deux personnes précédentes, à propos de la linguistique, etc.
Oui, en Algérie.
Il y a quelque chose qui m'a interpellée. J'ai lâché ce que je faisais. J'ai dit, je vais appeler Vanessa.
Très bien. Très bien fait.
Voilà. Alors, je vais passer, je te tutoie, hein, déjà.
Mais oui,
déjà,
c'est plus sympa. Oui.
Déjà, c'est mon droit d'aînesse qui me le permet, je pense.
Mais on est. Moi, je me sens beaucoup plus proche de vous quand on se tutoie, hein, les amis.
Oui, mais moi, c'est bien. Ça fait un bon moment que je t'écoute, Vanessa.
T'es un ami.
T'es
un amour. Voilà. Merci.
Voilà. Et ben voilà.
Alors.
C'est à propos de tu as posé une question à la dernière auditrice.
Nora, oui.
En passant le passage en Algérie du français à l'arabe.
Ah oui, je parlais de l'époque Chedli Benjdid.
Oui. Alors, je vais te dire une chose. Alors oui. Moi, c'est tu as visé en plein le poignard dans mon cœur parce que c'est une époque qui me parle.
Ah.
Parce que moi, j'étais de formation francophone. Alors moi je suis des générations 70, d'accord. Nous sommes les 70, comme on nous appelle.
Oui.
J'ai fait le lycée Hassiba Ben Bouali pour dire, hein. Donc.
Une
référence.
Ah oui, c'est une référence. C'est vrai que c'est une pointure là. Ah, oui, vraiment.
Voilà. Donc on a fait l'école vraiment. On a eu d'excellents professeurs et tout.
Tout à fait.
Mais il se trouve que
belle réputation, hein, Hassiba Ben Bouali.
Voilà. Alors, après, et je suis fière d'avoir fait ce lycée, en tout cas. Parce qu'il nous a forgé.
Bon,
il nous a forgé, mais après, on s'est retrouvés perdus dans la masse, et on se retrouve. Quand on se retrouve, on se renifle. C'est incroyable.
C'est vrai,
on se renifle. Quand une fille, elle a fait Hasiba. Voilà.
Ouais.
Ça veut pas dire que c'est la, je sais pas quoi. Mais.
Non, je comprends. Je comprends. Parce que vous avez, c'est vrai que,
Je parle des années 70, hein. Je parle pas des années 80.
Non. Oui, je comprends. Ben oui.
Voilà.
Là, c'était les bonnes années.
Voilà. Et avant Hasiba, quand je suis rentrée à l'école primaire, j'ai récité que mes ancêtres sont les Gaulois. Voilà. je suis cette génération.
Ouh, la menteuse.
Non, je suis pas menteuse.
Non, mais c'est pas ça. Parce que j'aime bien quand tu dis nos ancêtres, les Gaulois. Ah,
oui,
ben ça
vrai,
aussi, encore une fois.
Mais
tu te rends compte. L'ironie de l'histoire, l'ironie, vraiment.
C'est pas grave, mais quand même, on retient. Mais je vais te dire, Vanessa, malgré tout, j'ai retrouvé mon institutrice du CM1. Je l'ai retrouvée sur Internet. Je parle toujours à mes petits-enfants actuellement.
D'accord.
Cet après-midi, je parlais à mon petit-fils de CE2. Je lui ai dit, tu sais, moi, en CE2, je me rappelle de Mademoiselle Cordina, notre maîtresse. C'est-à-dire qu'un enfant n'oublie jamais.
Oui,
on a eu des institutrices. Il y en a une dont je fais abstraction, mais alors totale. C'est une maîtresse qui était méchante, certainement, qui ne nous aimait pas. Enfin, bref.
Oui, qui n'aimait pas son métier, déjà. Qui n'avait pas la vocation.
Voilà. En parlant, par la suite, donc, nous sommes restés francophones. Les enseignants qui sont restés sont devenus, c'était des coopérants techniques.
D'accord.
Voilà.
Okay.
Donc le programme, c'était le programme français. Mm-hmm. Donc on avait les mêmes programmes. Moi, ce qui m'a fait plaisir quand je suis venue à Paris, 98 comme ça, il y a quelqu'un qui avait posé une question en lui disant à une personne, lui dit mais comment se fait-il que cette Fatia elle sache ça? Eh ben le c'était un ancien directeur d'école, il lui a dit elle a fait la bonne école en parlant de l'Algérie, en parlant du français, voilà, parce qu'on a étudié le bon français.
Bien sûr.
Voilà. Bon, c'est pas ça le... Donc...
L'arabisation. C'était ça.
L'arabisation. Alors, l'arabisation. Donc, par la suite, moi, j'ai fait une formation donc enseignante, mais francophone. Je me suis orientée vers les mathématiques. Et donc, francophone. Voilà. Francophone. Donc, on enseignait les mathématiques en langue française. Et ça marchait très bien. Et comme tu le disais, la dernière génération, moi j'avais les classes de 6e à 3e. Dernière génération, mais vraiment qui ont réussi, je peux le certifier, parce que c'était les dernières que j'avais prises. Et l'année d'après, je devenais professeur de mathématiques en arabe. Et j'ai pris une autre génération d'élèves, mais c'est là qu'a commencé le petit chaos, entre guillemets. Alors, donc, je vais te dire.
C'était quelle année?
Alors, je vais te dire. Le président Boumediene, que Dieu ait son âme, c'est vrai qu'il il avait son projet, il disait, l'Algérie n'est pas un pays laïque, donc il disait, là-bas, qu'est-ce qu'on dit? L'islam au dinona ou l'arabie l'oratuna, c'est ça. L'islam est notre religion et l'arabe est notre langue, c'était ça. Il avait un projet d'arabisation, mais ça ne c'était pas possible qu'un homme aussi intelligent allait arabiser un pays qui parle français pendant 132 ans, c'était impossible. L'âge que j'ai, mon père est encore en vie. Et jusqu'à présent, ses journaux, c'est en français.
Ah ben non.
C'est jusqu'en français, il a toujours travaillé en français.
Mais
bon, alors, maintenant, ce qui me concerne, donc, dès le décès de Boumediene, que Dieu ait son âme, qu'il repose en paix, il est décédé en décembre 78.
Oui.
Et juste après, je dis bien juste après, la période c'était 80-81, il y a eu le mouvement Khomeini. L'héritage de Khomeini a pénétré les frontières, il est rentré en Algérie. Et il s'est passé un truc inimaginable, il commençait à y avoir un petit fléau qui se propageait dans travers le pays. Pour te donner un exemple, dans des quartiers.
C'est intéressant, oui.
Voilà, les vendredis, moi je me souviens très bien, vu que je l'ai vécu, les vendredis, dans toutes les mosquées, il y avait, en tout cas, il y en a celle de certains quartiers, où il y a ce fléau qui rentrait, et là, on commençait à voir, par exemple, le hijab, c'était cette année-là qu'on avait vu ça. Ça nous venait, il est distribué. Bon, il y a ce côté déjà religieux nouveau pour le pays. Mmh. Pour te donner un exemple, oui. mon père qui est avant l'heure c'est pas l'heure, après l'heure c'est pas l'heure, etc. Qui allait faire sa prière et qui revenait, puis c'est tout. Sinon, un jour, il voit un tableau qu'on m'avait offert. La Joconde que m'avait peint un oncle artiste, il m'avait fait la Joconde, qui était accrochée, donc ça ne lui avait jamais rien dit. Puis un matin, il vient, il me dit, tu sais, ce tableau, j'aimerais bien que tu l'enlèves, que tu mettes un portrait de tout ce que tu veux, mais que tu me l'enlèves. Parce qu'on leur avait dit à la mosquée que... Alors donc, il y a le bourrage de crâne qui commençait, les gens commençaient
la reproduction,
à rentrer
chez eux,
et à appliquer des choses horribles, enlever les photos, c'est ceci, c'est cela. Donc il y a eu une erreur de compréhension. Et les gens, ils étaient, on va dire, sur le plan de l'arabe, ne maîtrisaient pas l'arabe, donc ils ne pouvaient pas savoir ce qu'il y avait dans le Coran. Ils récitaient le truc sur la tabassie pour faire la prière, et ça s'arrêtait là.
Comme beaucoup encore, d'ailleurs.
Voilà. Et au même moment, il y avait une bande qui ont commencé à préparer et opérer, je sais pas si tu en as entendu parler, mais nous on était très au courant.
Dis-moi, oui.
Ça s'appelait c'est une bande qui était, on va dire, négligeable. Ils l'ont négligé, mais après on a vu ce que ça nous a fait les années, la décennie noire. La bande Abou Ali, ça s'appelait.
Oui.
Ablida.
Oui, qui a été tuée d'ailleurs.
Voilà.
Oui, dans les bois, ou je sais pas, dans une forêt.
On n'en entendait pas beaucoup, mais on était au courant.
On entendait parler, même ici, on en entendait parler.
Eh bien, voilà. Oui. Alors, moi, personnellement, dans tout ça, 80-81, un beau jour, on nous dit, voilà, on a arabisé. Alors, au lieu de commencer à arabiser, c'est-à-dire former les gens pour encadrer ceux du primaire et en repartant vers le haut, non, c'était la pagaille. Donc, un bon matin, on nous dit... Vous allez enseigner les matières. Au début, c'était bien entendu les matières littéraires, la philosophie, tout ce qui était... C'est en arabe, d'accord ? Mais c'était autour des matières scientifiques, telles que les sciences naturelles, la physique et les mathématiques. Donc, du jour au lendemain, on nous dit, vous allez enseigner en arabe ou bien vous faites autre chose. C'est-à-dire... Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu la fuite des cerveaux. C'était programmé. Il y a eu la fuite des cerveaux, donc il y a des gens qui sont partis.
Ben oui.
Bon, alors moi personnellement, je me rappelle francophone et tout ça. Je suis mauvaise en arabe parce que même si j'ai fait un très très bon lycée, c'était les premiers professeurs d'arabe qu'on a eu. J'ai eu la chance d'avoir. Il est encore en vie et jamais je ne le remercierai jamais assez pour ce qu'il nous a appris avec sa façon très fair play. Mm-hmm. C'est monsieur Abdelrazak Zouaoui qui est devenu reporter sportif de football.
D'accord.
Je sais pas si tu le connais.
Non.
Il
non,
est
non,
magnifique. C'est une
parce qu'il y avait des professeurs venus d'Égypte à l'époque,
oui,
n'est-ce pas?
Oui, mais non, au lycée.
Ton lycée peut-être pas, mais paraît-il qu'il y avait des professeurs qui étaient venus d'Égypte et qui n'avaient de professeur que le nom, parce qu'apparemment, on peut pas trop professeur, mais que juste comme ils maîtrisaient l'arabe, c'était épatant.
Oui.
Donc, il y avait un processus à l'époque, parce qu'il y avait une loi qui a été mise en place sur la généralisation de la langue arabe. Ça, j'en avais entendu parler parce que j'ai autour de moi des professeurs là-bas qui m'en avaient parlé.
Tout
qui a fait qu'après, sous l'ère de Chedli, ce processus d'arabisation a connu.
Mais c'était avant Chedli. Ça, c'était les années. Ce mouvement de professeurs égyptiens auxquels ils ont.
Ça, c'était avant lui, mais sous Chedli, ça s'est accéléré, je voulais dire.
Ça s'est fait. Moi, je vais te dire, ça s'est fait vers 74-75, je m'en souviens. C'était Je risque pas d'oublier parce que nous avions eu la visite du président Giscard d'Estaing aussitôt avoir été élu. Donc on l'avait reçu. Je me rappelle, on a été avec les élèves, etc. Donc on a fait la sortie et on avait justement ses collègues égyptiens et ses collègues égyptiens avaient semé la médiocrité carrément. Ça, je peux le dire.
Mais est-ce que c'est vrai que c'était pas des professeurs et que c'est ce qu'on disait. Beaucoup de rumeurs.
Je m'attardais pas à ça, mais on voyait très bien le niveau parce que moi.
Il y avait parmi eux des frères musulmans aussi.
Bon, ça, je me suis pas penchée moi sur ce plan-là.
C'est ce que j'en.
Mais
c'est
en tout cas, ce qui se passait, c'est que on avait remarqué la médiocrité, tout simplement.
D'accord.
Voilà. Alors à partir de là, il commençait à y avoir des clans. Il y avait le clan des élèves arabisants et des élèves francophones. Voilà. Mm-hmm. Alors moi, pour tout ce qui me concerne, on nous a dit vous allez vous arabiser. Bon, j'ai réfléchi, je me suis dit nous avons eu des professeurs. Moi, j'ai eu des professeurs russes en mathématiques et en physique.
D'accord.
Qui parlait très mal français, mais qui nous passait, qui nous enseignait la matière, c'est-à-dire que les termes en terminologie, ils étaient calés, donc nous n'avions pas de problème.
Mmh.
Alors je me suis dit, je vois pas pourquoi moi je ne pourrais pas. Donc j'ai pris mon courage à deux mains et je me suis dit, je vais foncer. J'ai foncé donc pour m'arabiser. Au début, c'était pas très très facile. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris, il y avait pas. Un manuel scolaire algérien, il y avait le résultat d'une, comme ils disent, loujna, un ensemble de personnes qui s'étaient réunies, c'est-à-dire toutes les fautes qu'on trouvait, c'était pas quand on travaillait, par exemple, on travaillait sur le maillard, voilà. Si on travaillait par exemple le français, moi j'étais contente de trouver une librairie avant-hier où ils vendent des vieux livres d'occasion et je trouve la collection, toute la collection de la gare des Michards. C'est une référence pour nous en français. Les maillards en mathématiques, les spinards, etc. On avait une prof de maths qui nous parlait de son ami monsieur l'espinard et enfin des trucs comme ça.
D'accord, oui.
Voilà. Donc, le manuel qu'on nous avait mis entre les mains. C'était le résultat d'un groupe qui avait pris les livres français, le programme sur lesquels on travaillait auparavant en français, et qu'ils ont traduit. Donc, c'est de la traduction. Et ça a été mal traduit. Et je vais te dire une chose. Moi qui suis mauvaise arabisante, on avait beaucoup plus avantage sur les arabisants que eux sur nous. Parce qu'il y a des gens qui étaient carrément arabisants, ils n'ont pas fait l'école française, donc voilà.
Oui.
Et on s'est retrouvés collègues. Alors, je vais, pour te schématiser, Alors, ma première année d'arabisation, premier trimestre, je remplis mes bulletins. Mon cours, je le faisais, donc j'ai commencé, je suis tombée sur un chef d'établissement extraordinaire, on a fait un travail d'équipe, j'ai commencé par avoir donc les sixièmes, petite classe pour aller doucement, ce qui fait que je faisais très attention. La seule chose de français qu'il y avait dans mes documents, c'était mon cahier journal et mon cahier de notes. Je mettais les noms des élèves en français. Pourquoi ? Parce que quand je prenais les listes des élèves qu'on me donnait dans de l'administration, j'appelle un élève avec son nom, il me dit non, au stade, c'est pas comme ça. Donc, par exemple, si j'écris Ben Hassin, moi je le prononce Ben Hassin.
Oui.
Ben Hassin, par exemple, si je dois doubler la consonne, je double la consonne. Alors moi, ma méthode, c'était quoi? Quand on reçoit une classe, premier jour, première heure, c'est l'adaptation. C'est la prise de contact avec eux. C'est très important. Qu'est-ce que je faisais? Chaque élève, je demande le nom. Et d'après la prononciation de l'élève, j'écris le nom en français. Et j'ai dit ça, n'importe quel inspecteur, même le président de la République, ne viendra pas me changer ma méthode tant que leur
livre. C'est ta méthode, bien sûr.
Voilà, c'était ma méthode.
Mais oui, tu étais à l'aise comme ça, ben oui.
Voilà, j'ai commencé comme ça. Donc mon cours se passait très bien. Donc voilà, sur ce plan-là, il n'y avait pas de souci. Le cours se passait magnifiquement bien.
Oui.
premier trimestre des bulletins à remplir. Donc je remarquais déjà que les cases pour les appréciations ont été vraiment écourtées. De par exemple 3 cm², c'est devenu 1 cm². Ça veut dire que, alors que moi je sais que on a eu des professeurs de pédagogie. Moi j'oublierai jamais un monsieur Baudel qui nous faisait pédagogie spéciale. Il nous avait donné tout un axiome, toute une série d'axiomes pour la pédagogie, dont les premiers, que si on les respectait pas, il fallait qu'on quitte. Alors, donc, voilà, c'était comme ça. Alors, j'étais en salle de professeur et puis il y avait des collègues à côté de moi. Déjà là, on sentait qu'il y avait quelque chose entre les francophones et les arabisants.
Un malaise, ouais.
Un malaise. Je suis arrivée un jour, un collègue, qu'est-ce qu'il nous a dit ? Il nous a dit, "Toumam stamarin nafsi, Yann." C'est grave ce qu'il nous a dit.
C'est quoi ? J'ai pas compris.
C'était un complexe qu'il faisait. Il nous a dit, vous êtes colonisé jusque dans l'âme.
Ah !
Oui, carrément. Alors, j'ai demandé à un collègue, je lui ai dit, parce que quelquefois il faut jouer à l'andouille. Hein. Alors, j'ai demandé, moi je sais très bien ce que je voulais mettre comme appréciation.
Oui.
Partant du principe que nous, quand on était élèves, moi je prends mon exemple, quand on recevait les bulletins, nos parents commençaient par voir l'appréciation avant la note. L'appréciation reflète l'élève. Il n'est jamais cassé un élève. Jamais. Il n'y a pas de mauvais élève. Je n'ai jamais pensé à écrire à quelqu'un mauvais travail ou quelque chose comme ça. Il y a toujours un encouragement. Alors j'ai demandé j'ai demandé aux collègues qui étaient juste. D'ailleurs, ils se mettaient pas dans la salle des profs quand il y avait des femmes. Déjà, ça avait commencé comme ça.
Ah oui, d'accord. Bon.
Voilà. Et ça, parce que j'avais changé d'établissement, de quartier, donc c'était toute une autre mentalité, comme si on allait d'une.
Enfin, c'est quoi ces hommes qui se mettent c'est incroyable. C'est parce qu'ils n'arrivent pas à maîtriser leurs pulsions. C'est ce que j'ai envie de dire, moi.
Oh là là, Vanessa, j'en ai beaucoup à dire.
Mais c'est vrai.
J'ai demandé.
Un homme normal, il peut être dans la même pièce avec une femme et il y a aucun souci parce qu'il est normal dans sa tête, quoi. Enfin.
Alors j'ai demandé. Alors Vanessa, je te pose une question et je sais que tu es logique, voilà. Et je t'adore pour ça. Si je te dis, pour un élève, peut mieux faire et peut nettement mieux faire. Est-ce que c'est la même chose?
Peut mieux faire et peut nettement mieux faire. Non, c'est pas pareil du tout.
Voilà,
c'est tout et son contraire, là.
Super, je t'adore pour ça. Eh bien, j'ai demandé, j'ai joué à l'andouille. Moi, je savais comment l'écrire, mais c'était juste un test. J'ai dit aux collègues qui étaient tout près, j'ai dit, comment est-ce que je vais, d'ailleurs, pour rentrer mon appréciation dans 1 cm² et en arabe. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai dit, je ne mettrai plus les appréciations en arabe. J'ai écrit mes appréciations en français parce que leurs parents ne comprenaient pas l'arabe. Déjà.
Ben oui, déjà, ben oui.
Voilà. Et moi, j'ai transcrit, c'est la loi. J'ai eu affaire à un inspecteur de mathématiques, mais des années après, j'ai vu ce qu'il était devenu, le complexe qu'il faisait par rapport à nous. Alors, j'ai dit, s'il vous plaît, comment on dit, peut mieux faire. Il me dit, estate un yamel acta. Je lui ai dit, là, je suis d'accord. Je lui ai dit, mais moi, ce que je veux dire, cet élève, c'est pas qu'il peut mieux faire. Je veux appuyer et lui dire, peut nettement mieux faire. Voilà. Il me dit, c'est kiff, nefseché, il est sauté, il y a un acteur. Non, c'est pas nefseché, je suis désolée. Alors, moi, je prends mon stylo et j'écris, peut nettement mieux faire. Allez, maintenant. Je reçois un jour la visite de monsieur l'inspecteur, avec son cigare.
Ah ouais?
Voilà. Alors, on était au bureau de la directrice. Donc, il a regardé il a assisté d'abord à mon cours. Je défie de m'avoir entendu dire un seul mot en français. Il n'a rien dit. Et quand il en est venu au document, je lui donne mon cahier journal. Il me dit, Ostéda, pourquoi est-ce que vous écrivez en français? Ah, je lui dis, monsieur, c'est un cahier personnel. Est-ce que pendant le cours, vous m'avez entendu dire un mot en français?
Ouais.
Non. Voilà, puisque je dis sin au lieu de x, je dis mutawazien parallèle, plutôt, enfin des trucs comme ça, j'ai pas du tout prononcé un seul mot. Voilà, bon, là je suis arrivée à le convaincre, il m'a dit mais vous devriez pas. Je lui dis ça c'est un cahier personnel.
Incroyable.
Je lui ai dit le drame, vous êtes arrivé à l'improviste, et si vous ne m'aviez pas trouvé, mon cahier journal est à jour, etc. Ouais. Je mets travail à faire. Puis ensuite, comme on a tendance à, on sait pas, on peut pas, etc. Donc je mets travail à faire et ensuite je coche ce qui a été fait, petite croix, comme sur les cahiers de texte que j'ai coché, c'est fait, c'est pas fait, donc travail à faire, à refaire, exercice d'application.
Oui.
Et ensuite il voit mon cahier de. Il me demande mon carnet de notes pour voir les devoirs, etc. Il me dit, mais pourquoi les noms sont en français? Je lui dis, monsieur, j'aimerais bien que vous alliez jeter un coup d'œil sur les listes des élèves dans l'administration, comment ils sont écrits. Mmh. Le jour où ils maîtriseront l'arabe, à ce moment-là, je les recopierai de leur liste, comme ils sont écrits. Il m'a grondé pour ça, on va dire. Et jusqu'au point où, en réunion, la directrice qui était ferme, mais une directrice comme il n'y en a pas beaucoup en Algérie, une femme qui a, elle a vraiment, pendant la décennie noire, quand on commençait à subir l'influence de certains collègues qui traumatisaient les enfants, elle nous disait, mais si toi tu quittes, moi je quitte, qu'est-ce qui va sauver ces enfants? Eh bien, on a eu raison de l'écouter. Personne ne s'approchait d'elle, et pourtant... C'est une femme qui avait sa... dans un quartier très populaire. Elle sortait dans sa voiture avec une jupe courte, etc. Personne ne l'a touchée.
Ben oui, mais c'est un gros risque. À l'époque, c'était un risque. Hein.
Voilà. Oui. Eh bien, voilà. Donc, en pleine réunion, un jour, ils lui disent « Letetekellamine billoural ». Alors, le complexe « Letetekellamine billoural ejnebiya », c'est-à-dire cette langue, il ne fallait même pas la nommer français.
C'est incroyable.
Oui, nous avons vécu ça. Moi, j'ai vécu des horreurs dans cet établissement. C'était horrible,
parce que quand... Oui, c'est vrai que...
Voilà. Eh bien, tu te demandais quand est-ce que ça s'est passé exactement, je te l'ai dit. C'est juste après le décès de Boumediene.
Oui.
C'était une façon de... La déstabilisation du pays commençait. Mmh. Et en 80, il y a eu le mouvement L'Héritage de Khomeini qui est rentré en Algérie. D'accord. On l'a vécu.
Oui.
Donc avec l'arabisation, avec l'héritage de Khomeini, c'était carrément une façon de déstabiliser le pays, de détourner l'attention de tout le monde, de foutre la pagaille. Et hop, l'explosion, 5 octobre 88. Ouais. Je montais travailler, je voyais mes élèves en tête dans des cortèges. Et on voyait donc après les premiers, le ministre de l'Intérieur à l'époque, qui avait enfin intervenu, ils ont même tué des gens qui manifestaient.
D'accord.
Ça a explosé en 88.
88, oui, je me souviens.
Ça s'est passé donc de 78 à 88, ça s'est passé en 10 ans. Et après, quand le président Boudiaf, que Dieu ait son âme, qu'il repose en paix, quand il est rentré, quand ils lui ont fait appel, la première des choses qu'il a faites, personne ne le connaissait, les jeunes ne le connaissaient pas, même moi je ne le connaissais pas. Il a eu le temps d'être connu, d'être aimé par la jeunesse, les moins de 25 ans.
Incroyable.
Et son objectif numéro un, c'était de récupérer nos cerveaux qui étaient partis des années 80.
Oui, puis faire du nettoyage surtout.
Et c'est ce qu'il a fait, il les a appelés, et comme l'Algérien au sens propre, enfin l'Algérien en général, normalement il a le sens de l'honneur, etc. Donc c'est pas quelqu'un, bon, tous les gens qui sont partis parce que Boumediene, quand il envoyait les étudiants, il avait fait une seule erreur, il les envoyait dans les pays parce que c'était là, tu avais parlé de la révolution agraire, c'était plutôt la tendance socialiste,
c'était un fiasco,
il envoyait les étudiants vers les pays de l'Est.
Oui, c'est ça.
Alors l'étudiant qui partait en Roumanie, il étudiait en roumain, la première année, c'était la langue. Moi, j'avais un frangin qui est décédé, là, dans des conditions dramatiques, en Algérie. Il a fait le russe.
D'accord.
Il a étudié en russe, mais quand il est revenu, c'était des gens qui étaient brillants. Celui qui a été en Roumanie, celui qui a été en Russie, celui qui a été en Bulgarie, ils ont tous étudié dans des langues étrangères. Ils sont revenus, mais avec des bagages solides.
D'accord.
Et toute cette équipe-là ne devait pas reconstruire, ne devait pas, l'Algérie était un pays en voie de développement.
C'était pas un
pays sous-développé. C'était un pays en voie de, personne ne pensait à partir de l'Algérie à l'époque. Mais bien entendu, l'équipe qui veut, qui a tué Boumediene, puisqu'il a été tué, nous le savons, eh bien, c'est cette même équipe qui a foutu le bazar et qui ont mis le président Chadli, que Dieu ait son âme. Bon, celui-là, on peut pas lui en vouloir parce qu'il a été posé comme un pion. Nous le savons. Et après, ça a explosé en 88. 88 a entraîné 90. Ils ont appelé Boudiaf. C'était le dernier espoir de l'Algérie. Eh bien, ils l'ont tué.
Vous me dites,
le jour de l'inauguration de la maison de la culture à Annaba, exactement.
Mais Boumediene était malade, hein. Il était, enfin, moi, je connais cette version qui est officielle. Il avait une maladie, je sais plus ce que c'était, Boumediene,
Le président Boumediene, il a été empoisonné.
Ah oui, bah écoute.
Il a été empoisonné. Nous le savons, ça.
Aïe.
Voilà. L'arabisation n'est pas venue comme ça. Toi, tu parlais de l'arabisation,
oui.
Je pose des questions, mais nous l'avons vécu. Et
vous l'avez vécu de l'intérieur même.
Moi, je le sais, intérieurement, moi, je souffre pour ça. Oui. Moi, je souffre. J'en ai souffert, je ne suis pas la seule. Moi, je suis un exemple. C'est un petit
écho, une goutte
d'eau dans l'océan.
Mais on entend qu'il y a une colère rentrée chez toi et que...
Ah, mais bien sûr. Voilà. Et puis nos enfants, moi je te dis, Vanessa, même après, même avec... on a fait... je sais pas pourquoi, mais nous avons quelque chose. Quand on se retrouvait dans des conseils de classe, c'était une autre mentalité. J'avais l'impression d'avoir vécu dans un pays, parce que j'étais dans un quartier, dans des établissements, et j'ai changé de quartier pour retrouver une autre mentalité, d'autres... C'était pas possible. Il y a eu une cassure, tu l'as dit tout à l'heure. Il y a eu une cassure.
Oui, c'est vrai.
Quand un professeur, des collègues viennent en pleine réunion avec la directrice, déjà, ils supportaient pas que cette directrice elle soit belle, elle soit intelligente, qu'elle ait l'autorité.
Ça, c'est la frustration. Ça, c'est la frustration.
Une belle femme, etc. Oui. Ils lui disent, c'est-à-dire qu'on refuse que vous nous parliez avec la langue étrangère.
Le français. Voilà, même pas la nommer. Mais ça dépasse le cadre professionnel, ça ressemble à de la politique, ce genre de comportement.
Non, c'était même pas ça, si au moins c'était ça. Vanessa, c'était même pas ça. C'était un complexe qu'il faisait.
Ben écoute, c'est...
C'était juste un complexe qu'il faisait, c'est tout, c'est un complexe. La même personne qui avait dit un jour, qui m'avait dit, vous êtes starmarine nafsienne, vous êtes colonisée jusque dans l'âme. La même personne un jour, comme on dit, chassant le naturel et revient au galop, un jour, il dit, oh là là, il nous décrivait merveilleusement bien son voyage à Paris, la tour Eiffel et machin,
ah
bon.
Ah ben c'est l'histoire du curé, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Je vais devoir te laisser parce qu'on a la pause. En tout cas, merci pour tout ça, parce que c'est vrai que tu nous as éclairé, tu as éclairé notre lanterne, en tout cas la mienne, et je te remercie vraiment. Parce qu'à travers toi, tu as attisé ma curiosité, tu l'as vraiment attisé, et je vais justement m'informer avec tous les éléments. Merci. Je t'embrasse très fort, Fatih. Allez, reviens.
Puis,
d'accord.
Allez, bonne continuation à toi.
Merci beaucoup. À bientôt.
Vanessa.
Au revoir, Fatih.
Merci, Jérémy.